petit mal au ventre. Ça, des petits virus, ça. Hein? Vous aussi, vous avez des petits virus chez vous ou pas? Ah, ah, ouais. Il y a Sonio qui découvre la scène Alerte Enfant. C'est Pépin, Pépipin, si vous tapez émote ou artiste avec un point d'exclamation devant, vous aurez. Tiens, je vais le faire pour vous d'ailleurs. Si vous faites point d'exclamation artiste, si j'arrive à mettre les mains sur mon clavier, hop. J'ai réussi ou pas? Normalement, vous avez la rêve de Pépin. Oui, regardez, c'est sa chaîne. Alors là, c'est son compte Twitter en l'occurrence. Tiens, je devrais mettre sa chaîne aussi. Voilà. C'est Pépin, Pépipin, qui est passé nous voir vendredi soir d'ailleurs. Et cette magnifique scène, donc le grand en bleu, c'est moi, avec les cheveux gris. Le moyen en bleu, c'est Malo, 6 ans, en CP. Et le petit en rouge, c'est Solal, 2 ans et demi, celui qui vient de venir nous voir. Donc je disais, ouais, les petits virus en ce moment-là. Hein? Au boulot ce matin, j'avais un David Delos, mon spécialiste économique, qui était courageux parce qu'il était là ce matin. Oh, elle est là, Pépin! Elle est là, Pépin! Je viens de faire ta publicité! Pépin, elle est là. Les émotes, les badges, la scène alerte, c'est Pépin. Voilà. C'est cool. Et donc, ouais, il y a David Delos à l'économie ce matin sur France Info, hyper courageux d'être venu bosser. Il y a des virus chez vous aussi ou pas? J'ai vu quelqu'un rater son train tout à l'heure, c'est pas cool ça. Il y a des malades? Qu'on vous envoie un petit peu de force? Célia, j'ai vu ton message, merci beaucoup. Ouais. Ouais. C'est tellement bien que vous mettiez sur pause quand vos enfants arrivent, ça les protège, c'est cool. Bah ouais, Pucci, c'est un peu l'idée parce que les enfants, même s'ils passent une tête ici parce que la porte n'est pas fermée, évidemment, on les expose pas, hein, ils ont rien demandé. Pauvre Bouchou. Et donc, c'est là qu'on a fait cette alerte, cette très belle alerte enfant avec Pépin, quoi. Voilà, c'était pour évidemment pas les exposer. Je remercie Break RBR, merci pour le 4e mois. Jérôme 78 pour le 3e mois. Hello, Célia BND qui m'a écrit un gentil message. Qui vient de s'abonner pour un 8e mois consécutif, Rainbow 86, un 5e mois, poum! Comment vas-tu? 12 mois, ça claque. MMG7F, habitué aussi. Oh, merci! Du gentil message, merci pour le 12e mois. Randy Random a offert 5 abonnements à la communauté, merci Randy Random. Flobby1, merci pour le 2e mois. J'ai pas vu tous ces subs tout à l'heure. Yaz Madoka, merci pour le 8e mois. Bob du 08, merci pour le 9e mois. Miam Sushi, merci pour le 10e mois. Et Mats974, qui était le premier à sub ce matin, merci pour le 10e mois. 10 mois ensemble déjà. Et puis c'est pas terminé. Switch Off vient de se rajouter. C'est reparti pour un mois. 13 mois. Certains sont déjà à 14. Pépin est en train de travailler sur de nouveaux badges, bien sûr, pour ceux qui vont atteindre les 18 mois bientôt. On est en train de. Oh, merci Aksukam pour le raid à l'instant. Etocello, merci pour le 14e mois d'abonnement. Et voilà, voilà. Ah bah voilà, je parlais de virus, il y a Hyrakuz qui est actuellement dans la salle d'attente du médecin. Ah, voilà, exactement, c'est normal, il y a plein de petits virus. Ah, il n'y a pas que du Covid, il n'y a pas qu'Omicron, il y a des petits trucs. Eh bien, bon retour, Sonio, qui est de retour parmi nous. Uria, K2, merci pour le 2e mois. Gentil message, et Lyric pour le Prime à l'instant. Meltox 9, est-ce que tu m'offres un café pour mon anniversaire aujourd'hui? Meltox, avec plaisir, enfin je te l'envoie virtuellement parce qu'au niveau de mon emploi du temps, c'est un petit peu coton. Je refuse beaucoup de sollicitations pro, notamment au quotidien. Et je m'en veux d'ailleurs parce qu'il y a plein de gens qui me proposent plein de trucs très intéressants, puis plein de trucs caritatifs aussi. Et en fait, Alors, il faut que je sois raisonnable. Et je suis déjà un petit peu à l'os sur le sommeil, donc c'est un peu chaud. Mais ça aurait été avec plaisir ce café sinon. Ouais. Cinémad, hello Samuel, j'ai adoré découvrir ton jeu hier. Tadam! Hier soir, on a fait un stream là-dessus. Étant fan de quiz, apprenti journaliste, je sais ce que sera mon prochain achat. Tenez, tac. Ça, on a joué avec ça hier soir. Voilà, c'est mon jeu de société qui sort le 12 octobre. C'est drôle. Voilà. Bientôt dans les bacs, comme on disait des disques à l'époque. Voilà. L'info Étienne, c'est 800 questions. C'est un jeu de société rigolo sur l'actualité de ces 2 dernières années. L'info Étienne, je me suis bien foulé sur le titre. Et du coup, on a joué hier soir. Je vous ai. Voilà. C'est en précommande, ça sort le 12 octobre. C'est sur tous les sites, vous pouvez acheter des biens culturels, que ce soit Amazon, Fnac, tous les libraires. N'hésitez pas à aller voir du côté des libraires indépendants. Voilà. Mais c'est en vrai, c'est en vente partout. On a bien rigolé. Oh, je vois du virus partout là. Oh, Arcom, mon écran. Je pense qu'on va voir l'image qui va s'imposer à nous. Mon écran disparaît littéralement sous ma pile de mouchoirs, mais ça va à part ça. Oh! Je vois du rhume des foins, je vois du rhume. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de rhume en fait en ce moment. David Delos ce matin, c'était pas le Covid, c'était un bon gros rhume. Ouais. Officer Ten Penny LS, merci pour le 7e mois. 7 months baby. Beaucoup, comment vas-tu, 5e mois. Sever B, 7e mois. Merci. Vive le télétravail pour regarder la matinée, Etienne, j'adore. Vous êtes trop cool. Ici, premier jour avec mon nouveau tatouage. J'ai adopté sur ma peau un petit oiseau. Je suis trop heureuse, me dit Yande Reko. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Allez, je vous lis un petit peu, puis on démarre, on va faire un petit sommaire et on va lire les journaux de ce matin. -15 degrés dans la salle de classe de mon collège, je suis né là. C'est chaud ça. Enfin non, du coup, c'est pas chaud. 15 degrés ? Bon, on n'avait pas dit qu'on essaierait de se mettre à 19 dans les bâtiments là. 15, c'est froid, non ? Je vais m'offrir Samuel Etienne pour Noël, phrase que je n'aurais jamais pensé dire un jour. Vous pouvez. Vous pouvez. Dimanche prochain, on rejouera encore peut-être, ou le dimanche suivant, je sais pas, on verra. Je vous lis, et on est mort. Pour la vache, Saumur-Mau, je me suis fait attaquer par des frelons ce week-end. C'est dingue, ça. J'ai jamais eu ce souci, moi. Les frelons, c'est chaud, ça. Ah oui, je me rappelle du raid vers ta fille, Dark Alpha, c'était cool. Oh, on a fait un raid vers une toute jeune streameuse qui a 16 ans, je crois, dans mon souvenir. Il y a sa maman qui nous avait proposé ce raid, qui était avec nous. Bonjour, je tenais à vous remercier, à te remercier. Le raid de jeudi dernier a vraiment fait plaisir à ma fille, ce fut un très beau cadeau d'anniversaire, c'était son anniversaire en plus. Et maintenant, elle est affiliée. Donc, c'est cool. Et bien, je suis bien content, c'était sympa. Et en tout cas, elle avait l'air contente. Voilà. MMG, bonne journée à toi. Ah ouais, je crois qu'il y en a qui travaillent de froid déjà. McNav, merci pour le 14e mois. Eh ben, on va y aller. Est-ce qu'il y a des nouvelles que je vous rappelle le concept qui est tout simple ici? Levez la main, les nouveaux, les nouvelles. Que je vous claque une bise et que je vous offre un café et que je vous raconte. T'es que les anciens, que les habitués? Bon, ouais, Forster, nous, ouais. Cyril lève la main, mais c'est pas du tout un habitué, il est super abonné. Anonyme31 est une modératrice ici. Et lève la main quand même. Ça fait un an que je suis nouveau tous les jours, me dit Poum. Ok. nouveau, me dit Redbug, qui sub depuis plusieurs mois déjà aussi. T'es que des faux nouveaux en fait. Pata Pizza, merci pour le 2e mois d'abonnement. À l'instant. Ok. Oh, et nouveau. Ok. Nouveau sur Rez. Oh, ok, il y a des nouveaux, c'est cool. Des nouvelles. Je suis nouvelle, me dit Etolara. Ok. Le café est offert, je suis nouveau. Non, le café est offert virtuellement, c'est un café qui vient du cœur. Mais en vrai, s'il y avait une machine pour vous envoyer depuis chez moi un café, je le ferais. On serait genre sponsorisé par une grande marque de café et je vous enverrais à chacun d'entre vous un café. Café noir, café au lait, sucré, pas sucré, allongé, court, je kifferais ça. Noix de coco 83, merci pour le 14e mois. S de Voyageur, merci pour les bits. Ouais, ah, j'adorerais faire ça, quoi. Imaginons, on serait sponsorisé, voilà, on aurait un sponsor café. Et je vous enverrai des cafés comme ça. Voilà, vous taperiez, je sais pas, mon point d'exclamation café dans le chat. Voilà, café au lait, café noir, café long, court, allongé. Vous précisez, bim, ça arrive chez vous. Ce serait cool, hein, ce serait sympa ça. Je vais essayer de bosser là-dessus. Ce serait cool. Oh, vous pourriez. Ouais, je sais. Oh, merci. Merci pour le raid à l'instant. Merci Gelos pour les beats. Merci Shadow PC France pour le raid. À l'instant, vous êtes dans la matinée, Etienne. Merci beaucoup. Je suis en train de regarder ce que tu fais. Je suis en train de cliquer sur ta chaîne, je suis curieux. J'aime bien voir s'il y a une petite bio pour qui présente. Let's go. Qu'est-ce que c'est Shadow alors? Je connais pas cette application Shadow. C'est très intriguant. Vous connaissez ou pas? Je vous montre. Je suis sur la chaîne qui vient de nous raid là. Très intriguant ça. Shadow est le moyen le plus simple d'accéder à un PC puissant. C'est pour moi ça. Complet. C'est pour moi ça. Instantanément sur tous les matériels que vous possédez. Pas besoin d'acheter un matériel coûteux. C'est pour moi ça. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion internet et de l'application Shadow. C'est votre PC dans le cloud. Un PC, mais qui n'est pas à la maison? Tiens donc. Les PC dans le cloud. Ah, vous connaissez? C'est un... Ah, ok, il y a Monsieur Tutur qui me dit que c'est un PC dans le cloud, c'est fort pratique. Un PC dans le cloud? Ah, vous connaissez une entreprise qui loue des PC virtuels pour le gaming? Mais comment ça se fait que tout le monde connaît sauf moi? Ok. Bah merci en tout cas. Il y a la cabane qui me dit j'utilise ça, ça marche vraiment bien pour le stream. Ok. Ok. Bah je connaissais pas. Et ben me voilà un peu plus savant. Ok. En tout cas, merci pour le raid à l'instant. Pulsar, Cassar, Nebula, comment vas-tu? J'adore ton pseudo. Merci pour le 6e mois. Et Alixia, je sais pas si je t'ai remercié pour les bits, je ne crois pas, du coup je le fais. Ok. Il en parle souvent chez Naotech. Alors, ah, bah alors si les amis de Naotech et notamment Jérôme en parlent, c'est que c'est bien alors. Jérôme qui va peut-être venir bientôt, l'ami Jérôme de Naotech, dans une hebdo Étienne. Vous savez, l'émission du vendredi soir sur cette chaîne, on reçoit trois invités pour revenir sur l'actualité de la semaine. Eh bien, il n'est pas impossible que Jérôme de Naotech vienne nous voir bientôt. Ah, parce que j'aime bien cette chaîne. J'aime bien toute l'équipe de Naotech d'ailleurs. C'est des gens très sympas, très cool. Voilà. En fait, Victor de chez Shadow t'arrête parce qu'il t'imite bien. Oh, j'aimerais trop voir ça. Je suis assez facile à imiter, hein. J'ai plein de tics de langage, de stream et tout. Je pense que je suis facile à imiter en vrai. Ok. La Condamine. Bonjour, bonjour. Je me suis fait un replay l'hebdo Étienne. C'est vraiment qualitatif. Tout à fait. Je suis d'accord. Jérôme, je connais. Jérôme, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui j'échange assez souvent. D'ailleurs, on a pas mal échangé ces derniers jours. Sur la tech, il est vraiment, c'est vraiment le boss, quoi, je trouve. Ok, super. Bon, alors les nouvelles, bienvenue, vous êtes dans la matinée Étienne. Qu'est-ce qu'on fait ici? On lit les journaux tous les matins. Voilà, la presse écrite quotidienne française, parce que je trouve qu'on a une presse de qualité. En tout cas, moi, c'est mon média préféré. Plus que. Merci Alice. Bisous à ton frère. Plus que. Je suis plus presse écrite que télé, que radio. C'est un peu paradoxal parce que je suis un journaliste de l'audiovisuel. Bien sûr qu'on va parler de l'élection au Brésil. Triple Scarmélie. Il n'y a pas beaucoup d'articles ce matin parce que les résultats sont tombés cette nuit. Mais je vous ai quand même trouvé un petit truc et on parlera bien sûr du Brésil. Donc voilà, moi mon kiff c'est la presse écrite parce que je trouve que c'est une presse qui ralentit un petit peu le mouvement dans ce monde qui va très 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 vite et des médias qui vont très 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 vite. Et de plus en plus vite, voilà. Donc moi, j'aime la presse écrite. Et donc je vous la lis. Burkina Faso, on va en parler aussi. Tout à fait, je vous ai informé, c'est cool. Bonne question de Gary Chigo. Hello Sam, est-ce qu'après les jeux de société, tu vas te lancer dans les cours de fitness que tu pourrais appeler l'abdo Étienne? Là en ce moment, je suis plus la brioche Étienne ou le petit bedou Étienne. Mais ok. Ouais. Oui, non, c'est pas vrai, c'est non. Mick 78, ça c'est fake news. Mick affirme que je lis la presse érotique aussi, ce qui me vaut quelques bans. C'est faux, c'est faux, c'est une fausse rumeur, je ne lis pas la presse érotique. Mais parfois dans la presse quotidienne classique, normal, parfois il y a des thèmes sur, je sais pas moi, la sexualité, ce genre de choses, et voilà, et les journaux collent des images qu'il faut pas. Libération, par exemple, ou le Parisien, je me suis pris deux bans ici pour avoir lu des articles où il y avait un petit peu trop de nudité du goût des modérateurs. Américain de Twitch. Voilà, bon, ça arrive. Merci Azard01 pour l'abonnement que tu as offert à Gary Chigo, justement, qui a proposé cette émission sur les abdos, là. Oh, bien joué, il y a Waze qui dit non, ce sera pas l'abdo Étienne, ce sera la graisse Étienne. La graisse GRE, accent grave, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vois, vous êtes très en forme. Oui, j'avais pris un ban à cause du Parisien, j'ai pris un deuxième ban à cause de Libération, qui, comme vous le savez, sont deux grands magazines pornographiques, bien sûr. Parisien et Libé, c'est ça. Karaoke valide à mort, Samuel était en shorty sur de la musique bizarre pour faire du fitness en live, le concept est bon. Ouais, le concept est bon pour se moquer de moi, ouais, c'est sûr. Zocian, bonjour Sam, s'il te plaît, peux-tu réexpliquer pourquoi la visite au musée de Bordeaux a été annulée? J'arrive pas à savoir. Petit souci perso. Voilà, on est un peu sur le privé, donc j'ai pas explicité pourquoi, mais du coup ce stream était plus possible samedi soir à Bordeaux, je pouvais pas quitter Paris. C'est pas grave, on s'est parlé avec le musée Homme de Bordeaux et on va refaire ça dans pas très longtemps. Voilà, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois par là quoi. Donc vous inquiétez pas. Hein? Ok, on y va? Allez, je vous fais un petit sommaire. Je vous fais un petit sommaire, je vous montre de quoi on parle, comme ça en 10 minutes vous avez l'essentiel de l'actu, et après on prend le temps et on lit tout ça. Ok? Prêt? Let's go? Allez, c'est parti. Vamos. Alors, qu'est-ce que j'ai ce matin? J'ai notamment ça. Oh là là l'affaire. Wax, c'est intéressant. Wax, c'est compliqué tout ça. Affaire Bayou, ouais, une des affaires, vous savez, des questions de sexisme ou violence sexiste ou violence sexuelle, ouais, il y en a quelques-unes dans le milieu politique. Affaire Bayou, le risque d'une justice exécutive, expéditive, ce qui n'est pas la même chose. Que nous dit le Parisien ? On parle de Julien Bayou, l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, puisque il a démissionné de ses fonctions à la tête du parti, sous le coup d'un signalement auprès de la cellule d'enquête de son parti pour des faits de violence psychologique sur son ex-compagne. Le député écologiste Julien Bayou a dû démissionner de ses fonctions à la tête de LV alors que la justice n'est pas saisie. Une situation qui soulève des questions sur le rôle de ces structures hors du droit. Donc, double page, voilà. Alors ça, c'est un débat qui n'en finit plus, hein. Notamment avec les révélations de vendredi, je crois, de Libération, sur ce groupe, il y a un éclairage ici, de militantes féministes au sein d'Europe Écologie Les Verts qui, d'après les révélations de Libération, comment dire, surveillaient, pistaient Julien Bayou depuis 3 ans, voilà, pour expliquer Libé, pour le faire tomber, quoi, le faire tomber politiquement. Donc du coup, tout le monde ne cesse d'en parler, avec cette interrogation. Voilà. Est-ce que c'est à des cellules internes de chaque parti de se faire un petit peu justice, ou est-ce que c'est la justice de le faire ? Voilà. Violence sexiste, les cellules internes dans le viseur. Les affaires récentes de violences sexistes et sexuelles ont mis en lumière les cellules d'enquête au sein des partis de gauche. Indispensables pour les uns, ces structures hors du droit, hein, sont critiquées par les autres. On lira cet article. On dira un petit encadré sur le mystère des louves. Hein, pourquoi les louves ? Parce que ce groupe de femmes au sein d'Europe Écologie Les Verts aurait envoyé un mail signé les louves alpha, voilà, en direction des anciennes campagnes de Julien Bayou pour obtenir des informations sur son comportement avec les femmes. Et vous lirez un édito, enfin nous lirons un édito de Nicolas Charbonneau sur cette question. Voilà. Est-ce que, en quelque sorte, la justice doit être rendue en dehors du droit ? C'est la question que pose le Parisien ce matin. Ça, c'est le sommaire. Donc, on est dans le Parisien avec cet article. Il n'a pas échappé à certains d'entre vous que, dans l'actualité internationale, il y avait un nouveau coup d'État au Burkina Faso. Il y en a eu il y a pas longtemps, un deuxième. Coup d'État sous l'influence russe, écrit Libération. Donc, ça, c'est un dossier sur les retraites que je vous lirai aussi. Voici Burkina Faso, coup sur coup d'État, puisque c'est le deuxième coup d'État en quelques mois, puisqu'il y en a un qui a eu lieu en janvier dernier, le Burkina Faso, où la situation est assez incertaine à l'heure où on parle, sur fond d'hostilité contre la France et de manifestations pro-russes. Et ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé au Mali, si je ne dis pas de bêtises, auparavant. Voilà, donc, article de Libération pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Merci Ninou105 pour le 7e mois. Et puis un autre dossier dans Libération que je vous lirai sur l'emploi des seniors en France. Bah ouais, la France bat en retraite. Libération, il se fâche un petit peu ce matin. Il dit ok, d'accord, on a bien compris que avec la réforme des retraites, on veut nous faire travailler plus. Hein. Est-ce qu'on va reporter l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite ? Est-ce qu'on va cotiser plus longtemps ? Est-ce que ça va être un mix des deux ? Donc on va travailler plus. Enfin, c'est l'intention en tout cas de l'exécutif, du président Macron. Et Libé dit ok, d'accord, super. On veut nous faire travailler plus longtemps, sauf que déjà, les entreprises n'emploient pas assez les seniors en France. C'est-à-dire qu'on pousse les seniors dehors. Voilà. La France, non pas dans la fleur de l'âge, mais dans la peur de l'âge. Bravo Libération. Et avec un dossier de Libération sur cette question. D'ailleurs, c'est bien beau de faire travailler les gens plus longtemps, mais si les entreprises ne les emploient pas et si on pousse les seniors, seniors ça va peut-être 50 ans. Hein. J'ai 51 ans, donc autant dire que je suis déjà un senior. Et oui, d'ailleurs c'est drôle. Moi, je sais plus quand, mais au sein de mon entreprise, j'ai reçu un courrier administratif assez sérieux un jour, je sais plus si c'est à 45 ans ou à 50 ans, enfin qui disait qu'en gros j'étais un senior, quoi. Voilà. Donc voilà, sachez qu'à partir de 50 ans, c'est ce qu'explique Libération, on est un senior, et les entreprises commencent à se dire ah, il est un petit peu cher chouchou là, et puis il est pas trop souple au niveau de son emploi du temps. Pas moi, moi je travaille pour une bouchée de pain, je suis... c'est donné, hein. Samuel Etienne, c'est donné, hein. Et puis il est très souple. Alors pas pour faire des exercices d'assouplissement, mais au niveau du travail, il est très souple. Voilà. Ouais, voilà. Mais donc Libération dénonce un petit peu tout ça. Voilà. On lira ça dans l'IB. On est dans le sommaire. Voilà. Armel Rose, merci beaucoup. C'est un joli pseudo. Merci pour le 10e. Arédine, j'avais pas vu. Merci pour ton prime aussi. Ouais. Samuel, il te faut commencer à mentir sur ton âge. Oui, t'as raison, photo pyro. Je vais arrêter de dire que j'ai 51 ans. On va dire que j'ai, pour que ce soit crédible, on va dire quoi? Pour gagner quelques années de tranquillité. Photo pyro, ça a raison. On va dire combien? 35, ouais, c'est un petit peu. 75, merci beaucoup, Ellie, c'est gentil. Ouais. 20, 38, 21, 41, 91, bordel, Buginer. 35, 45, 40 peut-être. 47, c'est crédible. Ouais, c'est quasiment mon âge, 111 km/h. On peut pas tricher un peu plus? T'as 43 ans et tu fais 1m80. Je fais 1m80, d'ailleurs, je fais un peu plus même. 37, on peut tenter le. Bah, Locon 71 propose 37 ans. On propose 37. Ou 15 ans, il y a Clocu qui dit on inverse les chiffres. Ouais, j'ai peur que ça passe pas. Ça passe pas. Un petit 37, ça se tente ou pas? Merci Xineco pour ces 13 mois de caféine en intraveineuse. Merci beaucoup pour l'abonnement. 37, t'abuses? Oh non, ça va. Je fais pas 37 ans. Ah ouais. Ah ouais. Ça passe? C'est Kiros qui dit ça. Ça passe ou pas? 37, ça passe? Oh, c'est mignon. 5,1 ans en rajoutant une virgule. Merci Daruxan. 47? Non, ça passe pas. 42 max? 37? 30... Pas 37? Ah, vous êtes pas gentil avec moi. Il y a beaucoup qui disent 37. 37 ans, ça passe en 30, 30, 360p. Ok, bah, je ferai plus que des visions en 360p. Trop mignon. 42? Oh, vous êtes pas cool avec moi. Ok, allez, let's go. 42, ok. À partir du moment où j'ai 42 ans. Donc, tous ceux qui arrivent dans le chat à partir de maintenant, ok, on passe le mot, hein. Faut qu'on soit crédible, faut qu'on ait tous la même version. C'est comme des coupables qui se parlent avant un interrogatoire de police. Donc, ok, à partir de maintenant, j'ai 40. Combien on a dit? 43, ok? 43 ans. Tout le monde est d'accord? On s'aligne sur 43, on n'en bouge plus. À 42, on avait dit 42, ok. 40, ok, 42, 42. Ok, let's go. J'arrête de dire des bêtises et je vous dis et je dis merci à l'humanité parce qu'il faut continuer évidemment de suivre ce qui se passe en Iran. L'humanité estime que c'est une semaine décisive en Iran. Vous savez, les manifestations pour la liberté, les manifestations notamment pour les droits des femmes. Sous pression, les autorités iraniennes pourraient accentuer la répression face à une population dont la détermination ne faiblit pas. En fait, je me suis laissé abuser par ce titre. Je me suis dit, comment ça, semaine décisive? Est-ce que les manifestants pourraient avoir gain de cause? Est-ce que le régime pourrait s'écrouler? Non, c'est pas ça. L'humanité craint en fait qu'il y ait un regain de violence contre les manifestants cette semaine. Semaine décisive. Parce que dans le passé, il y a eu des mouvements populaires en Iran comme ça qui ont fini par un bain de sang, quoi. Et c'est ce que redoute l'humanité. Voilà. Cyril pose la question importante ce matin. Comment un streamer qui ment sur son âge peut-il être crédible sur les articles de journaux qu'il lit? En fait, parce que je suis double, je suis deux personnes, je suis Janus. Hein, voilà. Bon anniversaire, All Might Beast, bon anniversaire. C'est-à-dire que quand je lis les journaux, je suis sérieux. Et puis dès que vous voyez que j'arrête de lire les journaux, là, la connerie n'est pas loin. La connerie n'est pas loin. Voilà. Et puis on lira un autre truc dans l'Humanité sur le Brésil. Parce qu'en fait, bah évidemment, il n'y a quasiment rien dans les journaux ce matin sur le Brésil, pas parce que ça n'intéresse pas, premier tour de l'élection présidentielle, mais tout simplement parce que, en fait, les résultats, on les a connus tard dans la nuit. Donc les journaux, ils sont partis à l'imprimerie hier soir, quoi, aux alentours de 20h, 21h, 22h. Donc il ne pouvait pas y avoir tellement d'articles sur les résultats et le fait qu'il y aura un second tour dans un mois, c'est super loin, parce que les partisans de Lula, l'ancien président de gauche brésilien, espérer que leur champion soit élu dès le premier tour, et ça n'est pas le cas. Bolsonaro s'est qualifié pour le deuxième tour, même si Lula a quelques points d'avance, c'est du 48 contre 43%, un truc comme ça. Voilà. Mais il y a une page très intéressante dans l'Humanité, j'ai trouvé, sur la question du bilan de Jair Bolsonaro, hein, 4 ans à la tête du pays, et estime l'Humanité une gestion calamiteuse, notamment de la pandémie de Covid. Qu'est-ce qu'il faut retenir du mandat du président candidat d'extrême droite? Eh bien, on donnera la parole à un chercheur au CNRS, qui est professeur à l'université de Sao Paulo, qui s'appelle Hervé Théry, voilà, et qui dresse un bilan des années Bolsonaro. Et il n'est pas très très lumineux, ce bilan. Merci David. Cadeau anonyme, merci pour l'abonnement que tu as offert à Jair Bolsomito 2022. C'est quoi ce pseudo, bordel? Kiros, j'ai vu ton message tout à l'heure et merci beaucoup pour le sub aussi, c'est cool. Kiros qui s'abonne et qui offre un abonnement à la commu. All Might Beast. Ah, j'avais pas vu que tu. C'est ton anniversaire, mais tu m'offres un sub. C'est le monde à l'envers. Merci beaucoup. Gorort, merci pour le Prime. Merci beaucoup. Voilà. On lira ça donc. Til Paris, salut Sam. Est-ce que tu reçois tous les journaux gratuitement chez toi? Est-ce que tu les payes? Ça dépend. Quand je fais la matinale de France Info, du lundi au jeudi. Bon, réveil à 2h du matin, arrivé à 2h45 à France Info. Et mon premier plaisir, c'est de lire les journaux. Voilà, c'est mon kiff. Donc, je les lis pour faire une revue de presse sur France Info le matin, la télé, sur France 2 aussi, puisqu'on fait une première demi-heure d'actu sur France 2 de 6h à 6h30. Après, c'est la matinale, 6h30, 8h30, sur le canal 27. Meilleure matinale du monde, venez voir, d'ailleurs. Donc, je lis les journaux pour faire une revue de presse. Et après, je ramène les journaux. Hein. C'est un geste un peu écologique, et aussi parce que je suis un petit peu rat. Et donc je les ramène à la maison, notamment parce que j'ai travaillé dessus, j'ai mis du Stabilo partout, donc voilà, ce serait débile de reprendre un jeu alors qu'en fait il y a déjà du travail dessus. Donc ça c'est du lundi au jeudi, et puis le vendredi, samedi, dimanche, quand je fais des revues de presse, bah là c'est les journaux que j'achète, que je télécharge directement sur ma tablette. Voilà. Vous savez tout. Et tout ça est fait avec pour la presse papier, du journal, du papier recyclable. Hein. Sachez que les journaux français sont imprimés sur du papier recyclable et après je le recycle, bien sûr, moi aussi je mets ça au recyclage, voilà, et non pas aux toilettes, Cyril qui écrit, et ensuite il les réutilise aux toilettes. C'est un geste écologique? Pas du tout, puisque j'ai des toilettes japonaises sans papier, avec le petit jet d'eau là. J'adore. Ouais, oui et non. Il y a Kelios qui dit, mais tu savais qu'avec ta box, tu as accès à la presse gratuitement, ton abonnement. Certaines box internet proposent des abonnements numériques à certains journaux, mais sachez qu'en fait, y a, la plupart des grands journaux nationaux, enfin, ceux qui m'intéressent, sont sortis en fait de ces abonnements et préfèrent que les gens s'abonnent directement à eux ou vendre au numéro directement sur internet. Et donc c'est vrai que ces abonnements ont été intéressants à une époque. Aujourd'hui, par exemple, sur mon abonnement box, un abonnement presse box que je paye chaque mois en plus de mon abonnement, il n'y a pas Le Monde, il n'y a pas Le Figaro, il n'y a pas L'Opinion, il n'y a pas L'Humanité, il n'y a pas La Croix, il n'y a plus L'Équipe. L'Équipe est sortie. Voilà. Donc il reste aujourd'hui dans le truc, la plateforme que j'utilise liée à ma box, il reste en journaux nationaux Le Parisien et Libération. Je crois. C'est tout. Donc ça fait pas beaucoup. Voilà. Non, l'équipe c'est sorti de très récemment. Voilà. Donc, oui, attends, j'étais avec Le Figaro là. Beaucoup d'actualités internationales, mais des choses vraiment intéressantes. Merci Laura, comment ça va? Merci Laura Crazy Things pour le 10e mois. La une du Figaro qui alors vraiment dit que ça, rien ne va plus en Royaume-Uni. Avec Liz Truss, donc la nouvelle première ministre, hein, qui a succédé à Boris Johnson, le Royaume-Uni s'enfonce dans la crise. Bon, alors quand on lit Le Figaro, ça a l'air de pas très bien se passer. L'hostilité contre la première ministre Liz Truss monte au Royaume-Uni après l'annonce du mini-budget du gouvernement. Salut Moto, je kiffe la Drôme. Alors que le pays a plongé dans la tourmente économique et financière. Donc on lira d'abord ce petit article pour comprendre. Et puis il y a un édito, Calamity Truss, écrit par Philippe Gélis, maintenant dans Le Figaro, où Le Figaro dit, pas sûr que nos amis britanniques aient eu l'idée du siècle en sortant de l'Europe avec le Brexit, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est Le Figaro. Et puis je vous lirai un dernier article, deux encore. Moi j'aime bien les pages saumon du Figaro. Le Figaro avec Les Échos, c'est un des journaux qui s'intéresse le plus aux questions numériques, tech, gaming aussi, voilà, e-sport même parfois. Et là, dont les pages Figaro Echo, donc les pages saumon, on les appelle comme ça à cause de leur couleur un peu particulière, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça n'est pas blanc en fait, c'est saumon, c'est un joli saumon. Et je vous ai mis deux dossiers de côté. Non, c'est pas du saumon recyclé. Non, pas du tout. C'est du saumon de rivière. Voilà, qui saute comme ça par-dessus les trucs. Les influenceurs en France sous haute surveillance, parce que sachez bien que les autorités françaises ont décidé de mettre au pas les stars des réseaux sociaux qui assure la promotion de produits ou de services douteux. Ah ah ah, les influenceurs, hein, qui vous vendent des trucs. Voilà, les mots sont lâchés, hein. Arnaque. Les autorités contre-attaquent pour réguler le business lucratif des influenceurs. Enfin, écrit Mme Goanag. Il était temps, me dit Quasimoche. Voilà. Enfin, me dit Shepherd. Booba doit être content, me dit Thomas Jazz. Samuel dans la sauce. Ouais, je suis pas influenceur, moi. Je vends rien, moi. Je vends rien, je vous vends pas des produits financiers tout pourris, hein, comme certains. Hein. Comme certains. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, on lira ça. Et puis, on lira un autre truc dans le Figaro Echo. Il y a Teenage Turtle qui dit, il y a même des influenceurs qui vendent des jeux de société bidons. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Si vous en connaissez des influenceurs qui vendent des jeux de société bidons, il faut le dénoncer, hein. Ça, je dis non, hein. Ça, moi, vous m'aurez toujours avec vous pour dénoncer du placement de produits comme ça, voilà. Hein. L'info Étienne, à partir du 12 octobre, en précommande déjà. Skiff. Vous tapez point d'exclamation jeu dans le chat, vous avez les liens pour acheter. Et puis, puisqu'on parle de tech, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est cette diablerie même? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Un robot promu PDG en Chine. L'intelligence artificielle prend le pouvoir. Vous avez entendu parler de ça? En Chine, ils ont mis une IA, hein, un robot, puisqu'elle est, elle est en quelque sorte matérialisée, elle a un visage, elle a un corps sur écran, quoi. Voilà. Et donc cette IA, c'est la patronne de la boîte, quoi. Il y a 6000 employés qui dépendent de cette IA. Ouais. Alors c'est quand même bizarre. Donc le Figaro en parle ce matin on en a parlé aussi sur France Info. Ouais. Il y a Émilie qui dit, comment ça une femme PDG, diablerie, mais pas du tout. J'adore travailler avec les femmes, moi. Non, pas du tout, c'est le fait que ce soit une IA, bien sûr. Alors qu'il y a un visage féminin, mais on est bien d'accord, quoi. Je sais que vous me faites marcher, mais... Hein. Imagine, tu es viré par une IA. Bah, c'est ça, Mme Goanag. Mais voilà, vous verrez que ça va se passer. Elle se nomme Sarah Connor, dit Voodoo Cry. Non, pas du tout, le mec, le premier degré. Elle ne s'appelle pas du tout Sarah Connor. Elle s'appelle... Parce qu'elle a un nom, hein. Tang Yu. Voilà, Tang Yu. Tang Yu. Tang Yu. Tang, c'est une partie de son nom. Son nom en entier, c'est Thank you very much. Voilà, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Voilà. Ce matin sur France Info, j'ai pas osé la faire, mais je la fais. Voilà. Thank you. Désolé. 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 C'est Michel Denisot qui m'écrit les blagues, en fait. Il me prend super cher. Hein. Donc celle-là, elle est de Michel. Donc ne lui en voulez pas. Ne lui en voulez pas. Elle est excellente, bah, je lui dirais. Ça va être sympa. Hein. Moi, je lui ai dit, Michel, je lui ai dit, franchement, tes blagues, elles sentent un peu le pâté. Hein. Quand je vois ce que tu me prends, Michel, c'est pas beau de vie. Hein. Je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit, Michel, franchement, tu peux faire mieux que ça, je pense. Ah bon, vous aimez ce genre de blagues? Ouais. Je trouve ça très drôle, moi. Ouais. Michel, il est un peu. Hein. Franchement. Ouais, bon. Je suis mort de rire au travail, merci Samuel, me dit Balek mec. L'encouragez pas, parce qu'après il va m'envoyer d'autres. Oh non. Non. Samuel, j'ai pas suivi, c'est quoi ton jeu de société? Ah non, je vais pas vous refaire un stream pour vous vendre mon jeu de société. C'est mon chouchou, c'est un replay. Hier soir, 18h21h30, je crois, ou 18. Non, 18h30, 21h30, on a fait 3 heures de stream sur ça. Voilà, sur l'info Étienne! C'est le jeu de société que je viens de lancer. Ouais, c'est moi, c'est ma tête sur le jeu de société. C'est 800 questions sur l'actualité de ces deux dernières années. Si tu vas sur le stream d'hier en replay, gratuit, hein, le stream, t'as tout. T'as tout. À quand un livre de blagues? Oh, ne m'encouragez pas. Oui, bien sûr, Audrey Pucci. Il ne faut pas oublier que derrière l'IA, c'est de la programmation humaine. Bien sûr, on parlera de tout ça. Exactement. Ouais. Il y a Geek Librairie qui écrit « Espérons que le jeu ne termine pas dans les caches express dans 2 ans. » Ah ouais, non, chaud. Ouais. Théma, le melon du mec qui met sa tête sur la boîte de son jeu de société, dit Cyril. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Putain, voilà le melon de l'autre, quoi. Psst, présentateurs. Ils sont franchement, moi, ça me dé... Vous savez quoi? Ça me débecte. C'est à moi, ces gens-là, ça me débecte. Hein, c'est melon et compagnie, ça. Hein, voilà. Hein. Melon mûr, même. Pas le melon, le petit melon de printemps, là. Petit melon de Cavaillon tout frais, là. Hein, qui vous réjouit le palais. Non, non, le melon qui pique un peu, là. Le melon un peu trop mûr, là. Hein, le melon qu'on n'a pas surveillé, là. Ah là là là. Dégoulasse. Voilà, ça me débecte, ça me débecte. On y va? On lit les journaux ou pas? Miss Mélisse, merci pour le 7e mois d'abonnement. Sexitor. Voilà. Alors, bah, Sexitor, c'est aussi Michel Denisot qui lui écrit ses blagues, parce qu'il y a Sexitor qui s'abonne pour 9 mois. Merci à toi, c'est super gentil, qui écrit « Salut Nagui, j'adore ton stream, alors je continue de m'abonner, n'arrête jamais. » Voilà. Michel, il écrit pour toi aussi? Ça me fait rire.
Mais je ressemble pas à Nagui.
Je ressemble à Nagui? Sondage dans le chat. Merci à Icy Run pour le Prime. Je ressemble... C'est pas Nagui, c'est Hanouna. Oh non, il y a des règles dans le chat là. Hein. Les modos, qu'est-ce que vous laissez passer là? De très loin, juste pour l'humour. Oui, je m'abonne que pour les vannes, me dit Icy Run. Oh, c'est trop mignon. Oui, oui, the IMC, comment vas-tu? 14 mois d'abonnement, ça claque. Un peu. Un Nagui de lendemain de soirée? Il y a Titouan Edzer qui a écrit. Un Nagui de lendemain de soirée. Ah, mais sérieux, quoi. Mais sérieux. Un Nagui de lendemain de soirée. C'est même pas un Nagui normal. Un Nagui qui sent un peu le vomi, quoi. Avec les yeux vitreux, quoi. Ah, mais sérieux, quoi. Eh ben. Flavius Aetius, 1453, merci beaucoup pour le gentil message. Loire Billon, merci pour le 3e mois. C'est fou, ça. Un Nagui de lendemain de soirée, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit hier que je ressemblais à Zemmour, quoi. Oh, le Nagui du pauvre. Le Nagui de, comment on dit, truc chinois, là, pour acheter des trucs pas chers, là, qui sont produits dans des conditions exécrables. Le Wish, voilà. C'est un Nagui de Wish. T'as les pantalons à 2 euros, là, fabriqués par des gens dans des conditions de ouf, là. Ouais. Pas faux pour Zemmour. Bon, allez, fin du... J'en ai marre. On me compare à... On dit que je ressemble à Zemmour. Salut. Salut, bonne journée. Ah non, c'est trop. J'en ai marre. Tcho. Tcho. C'est bon, le micro est coupé, là? C'est bon, je peux... Ouais, c'est bon. J'en peux plus, hein. T'as vu l'humour de... Ils ont vraiment un humour pourri, quoi. Sérieux. Je fais des efforts, mais... Non, mais sérieux, quoi. Zemmour. Non, sérieux, je relance pas le stream. Non, j'en peux plus, je veux bien faire des efforts, mais je crevais. Attends, je me suis levé à 2h du mat pour me prendre des vagues pourries comme ça, quoi. Ah non, je coupe le stream. Non, je reviens pas. Non. Quoi? Le micro? Là, j'ai mon micro. Ah, salut! Non, excusez-moi, j'étais parti faire un truc. Je suis vraiment en forme de connerie, moi. Ah, je vous kiffe. On y va ou pas? Allez, let's go. 44 minutes de stream, ouais, on est bien, on est sur une introduction, c'est pas mal. Merci, Twitter, tu m'as manqué aussi. On y va? Allez, on part sur des trucs légers. Hein, légers, rafraîchissants, voilà. Les violences... sexiste, sexuel, dans le milieu de la politique. Voilà, on commence léger. Alors, c'est un feuilleton dont on n'a pas fini de parler. Ça, les affaires Quatennens, les affaires Bayou, notamment pour les dernières. Donc là, on parle de l'affaire Julien Bayou, ce matin, l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Je dis ancien parce qu'il a démissionné de ces fonctions-là. Et le Parisien qui s'interroge, qui s'inquiète un petit peu du risque d'une justice expéditive. De quoi s'agit-il? Sous le coup d'un signalement auprès de la cellule d'enquête de son parti pour des faits de violence psychologique sur son ex-compagne, le député écologiste Julien Bayou a dû démissionner de ses fonctions à la tête de LV. Alors que la justice n'est pas saisie, une situation qui soulève des questions sur le rôle de ces structures hors du droit. Certains ont déjà choisi leur camp sur cette histoire, voilà, hein, notamment Seri Dwayne dans le chat, là, ça y est. Ah, les hommes s'y censurent parce que les femmes parlent entre elles dans les parties. Bon, on va voir de quoi il s'agit. En tout cas, certains ont déjà choisi leur camp. De quoi s'agit-il? Violence sexiste, les cellules internes, les cellules internes qui sont essentiellement dans les parties de gauche aujourd'hui, dans le viseur, les affaires récentes. Wadaf, il dit, il a pas dû, il a choisi de quitter ses fonctions, bien sûr. Sérieux, tu crois vraiment à cette tu crois vraiment qu'il a dit, tiens, genre, je vais abandonner mes fonctions là parce que non, c'est pas cool. Non, non, évidemment qu'avec la pression qu'il y avait, il n'avait pas trop le choix, quoi. C'est pas une décision qu'il a prise. Violence sexiste, les cellules internes dans le viseur, les affaires récentes de violence. Faut pas prendre tous les éléments de langage au premier degré en politique. Hein. Souvent, il y a des choses derrière. Les affaires récentes de violence sexiste et sexuelle ont mis en lumière les cellules d'enquête au sein des partis de gauche, indispensables pour les uns, d'accord ? Ces structures hors du droit sont critiquées par les autres. Donc là, on a déjà deux visions. Il y a ceux qui estiment que ces structures internes d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans les partis sont indispensables. Hein. Et puis d'autres disent que c'est hors du droit. Voilà. Lisons ce petit article-là, enfin, ce gros article, une partie, et après on lira l'édito, l'avis de Nicolas Charbonneau. Un responsable politique poussé, notamment par les féministes de son parti, à se retirer sur la foi d'un signalement en interne alors que la justice n'est même pas saisie d'une affaire le concernant. C'est une première en France, explique le Parisien. Procédure a priori transparente, ok, mais critiquée, hein, car jugée encore trop opaque ou facteur de risque d'instrumentalisation politique. J'adore parce que le débat est parti à 200 km/h dans le chat. Mais les critiques ont redoublé après un article de Libération qui date, je crois, de vendredi, évoquant une mise sous surveillance de Bayou par des militantes féministes mises sous surveillance qui durait depuis plusieurs mois, depuis 3 ans même, disent certains. Le débat traverse la gauche aujourd'hui, faut-il traiter ces cas en interne au sein des partis, les externaliser ou laisser la justice faire son travail. Un petit éclairage sur l'histoire des louves, là, dont a parlé Libération vendredi. Le Parisien qui revient sur ses révélations évoquant la mise sous surveillance de Julien Bayou par plusieurs militantes économistes féministes qui ne font sourire personne aujourd'hui chez Europe Écologie Les Verts. Selon l'article paru vendredi, donc c'était bien vendredi, l'ancien leader du parti qui conteste lui les accusations de violence psychologique envers une ex vivait depuis 3 ans, donc c'était ça ce que racontait Libération, depuis 3 ans sous la pression d'un collectif informel, lui reprochant sa conduite et enquêtant sur ses relations avec les femmes, allant jusqu'à interroger ses anciennes compagnes en signant notamment un mail « Les Louves Alpha », d'où le titre que vous voyez peut-être ici, « Le mystère des Louves ». Méthode digne de la Stasi pour les uns, Inquisition pour d'autres. Les réactions ont été d'autant plus vives en interne que toujours selon Libé, là on parle des réactions vives en interne au sein du parti Europe Écologie Les Verts, il y a eu beaucoup ce week-end de réactions d'élus de ce parti, pas toujours très positive quant à cette espèce de surveillance. Les réactions ont été d'autant plus vives en interne que toujours selon Libé, une des femmes membres de la cellule contre les violences sexuelles et sexistes dans le parti, qui instruit actuellement l'affaire Bayou, fait partie de ce groupe informel. Voilà. Ce dimanche, Sandrine Rousseau, qui était l'invitée d'une émission politique sur France 3. Pourquoi on parle de Sandrine Rousseau ? Parce que c'est notamment elle qui a fait connaître l'affaire Bayou en parlant sur le plateau de France 5. Cette dernière a assuré sur France 3 ne pas connaître l'existence de ce groupe, okay, mais n'a pas rejeté ses éventuelles pratiques, et elle dit « c'est un groupe de femmes qui se parlent ». C'est bizarre parce que... Attends, l'article est bizarre. Parce que Sandrine Rousseau dit qu'elle connaissait pas l'existence du groupe. Puis après, elle dit c'est un groupe de femmes qui se parlent. Alors, je comprends pas trop. Ah, peut-être qu'on l'a mise au courant après. Bon, d'accord, je sais pas. Bon, il y a un truc qui... Ouais, ok, bon, ok. D'accord. Ne pas connaître l'existence de ce groupe, c'est un groupe de femmes qui se parlent. Bon, on a dû lui expliquer après, on va dire ça. Sans doute. J'essaie de comprendre. Bon, il faudrait que j'aille écouter l'interview, parce qu'il y a un truc qui ne va pas là. C'est un groupe de femmes qui se parlent, les femmes ont le droit de se parler, elles ont le droit de se protéger tant que la justice ne le fera pas. Donc ça, c'est l'un des arguments importants pour légitimer ces cellules internes, c'est que la justice ne fait pas, disons-le, mais ça c'est un constat, hein, ça c'est normal. Hein. La justice ne fait pas son travail contre les violences contre les femmes en France, ça c'est, personne ne peut le nier, hein, c'est très lent, quand ça débouche, c'est-à-dire pas souvent, ça c'est vrai. Donc certains En fait, la création de ces cellules internes dans les partis, ça vient de là. Hein. C'est des gens qui disent, bah, attendez, comme la justice ne fait pas son travail, ne le fait pas assez vite, voire ne le fait pas, eh bien, on va nettoyer un petit peu notre propre parti de ces comportements-là, quoi. Alors, le constat, il est là. On comprend un peu le message, on comprend l'analyse, la réflexion. Mais le problème, c'est que du coup, on en arrive à des décisions, des sanctions, hein, puisqu'on est bien d'accord que Julien Bayou a été poussé dehors. Des sanctions qui sont décidées, prononcées en quelque sorte, hors de tout cadre légal, encadré, cadré, avec des règles, notamment les règles laissées à celui ou celle qui doit se défendre. Voilà. Donc, du coup, ça lance un autre débat. Parfois, il y a des légitimités comme ça, des logiques qui s'opposent. C'est le cas ici. Beaucoup reprochent à Sandrine Rousseau d'avoir ciblé Julien Bayou en public sans attendre les conclusions de la cellule, parce que cette fameuse cellule n'a toujours pas rendu son... On va pas parler de verdict, mais son... Quoi d'ailleurs? Parce que c'est pas un tribunal, alors. Son rapport, peut-être. Ses détracteurs l'accusant d'utiliser la cause des femmes à des fins politiques. Voilà. On va lire l'édito, mais d'abord je vous lis vous, parce que ça m'intéresse autant. La justice populaire, c'est pas fou, me dit Eden Blaster. Wadaf dit ça ne va souvent jamais jusqu'en justice, hein, les violences sexistes et sexuelles. C'est vrai, les chiffres, les statistiques le disent. Et puis quand ça va en justice, ça va rarement très très loin, quoi. Turin, ça revient à se faire justice soi-même, je suis fondamentalement contre. Ce n'est pas une raison pour rendre justice soi-même, dit Elliot. Justice parallèle, dit Zeratul. Sherinskat, je ne comprends pas vos réactions négatives. Dans une entreprise, ça arrive tous les jours que les gens se fassent virer du fait de leur comportement sans avoir recours au tribunal. Oui et non. Alors si tu fais pas ton boulot, si tu fais n'importe quoi au taf, oui, tu vas être viré pour faute ou faute lourde. Et puis si effectivement tu as fauté, même en allant devant les prud'hommes, tu n'obtiendras pas gain de cause. Là, il s'agit de comportement... Non pas dans le cadre de ton travail, mais un comportement personnel par rapport, en l'occurrence, aux femmes, avec des violences dites psychologiques. Et donc, entreprise, tu ne te fais pas virer à ce jour parce que tu es soupçonné d'avoir harcelé psychologiquement une femme. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose quand même, je crois. Hein, je crois. Laura, ces cellules internes sont nécessaires, mais elles devraient être régulées en étant... Garder secrète jusqu'au rapport parce qu'il y a un conflit d'intérêts, malheureusement. Voilà. Le problème, c'est que là, c'est sorti avant le rapport. Il est très dur de signaler un harcèlement sexiste ou sexuel. En tout cas, ça m'est arrivé, me dit Laura, dans deux cas très différents, que ce soit refus de prendre ma plainte ou juste menace du groupe de personnes si je reporte le problème. Ouais. K.O., qu'est-ce qu'il a fait du coup? Ben, on ne sait pas. Bon, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas plainte. Je peux pas te dire, la presse ne peut pas te dire. On parle de ce qui est évoqué, ce sont des violences psychologiques et on n'en sait pas plus. Donc voilà. La présomption d'innocence foulée aux pieds, dit Princesse Emma. Elles n'ont pas eu le choix car la justice ne fait pas son travail, Nari et moi. Vous savez quoi, on va faire un sondage tout à l'heure hein, parce que je vois beaucoup de choses intéressantes. Elisa trouve qu'effectivement, Madame Rousseau n'aurait pas dû lancer une rumeur, puisque le rapport n'est pas sorti. Je vous lis l'édito, et on fait un sondage, d'accord? Édito de Nicolas Charbonneau, qui est à gauche, qui donne un petit peu l'avis du journal sur cette question. On y va. Flavius et Issus, merci beaucoup pour le troisième mois et le gentil message. Je me suis mis sur Twitch grâce à toi, c'est gentil. J'ai désormais l'impression d'être plus jeune. Laure Billon, merci pour le troisième mois et on y va. Sans loi ni foi, c'est l'édito de Nicolas Charbonneau. Les violences sexistes et sexuelles sont un terrible fléau. Les combattre sans faille est un devoir, le nôtre, dans l'entreprise, le monde politique, l'éducation de nos enfants, la société. Une gifle n'est pas un acte insignifiant. Un mot peut blesser, une attitude peut dévaster, nous ne devons rien laisser passer, jamais, ne rien tolérer, ne rien banaliser. Bon, là je pense qu'on peut rien dire. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce combat. Mais, voilà le mais. Il y a Wadaf qui dit, on rappelle que c'est le Figaro 1, les gens. Sérieux? Un peu de concentration, là. Wadaf, t'as peut-être fait la fête toute la nuit, mais un peu de concentration, bordel. Sérieux? Vous êtes sérieux, là? Il y a un mais. Précisément parce que c'est un combat commun aux femmes comme aux hommes, il ne s'agit pas de le déléguer à une justice parallèle, hors des clous, sans loi ni foi. Notre époque aime le buzz, le clash, le temps court de la justice que l'on rend sur les plateaux de télévision avec des chroniqueurs munis de pancartes, tiens, ça me fait penser à une émission, qui décident du bien ou du mal en s'époumonant sans trop réfléchir. On n'écoute plus, on invective, on expédie, on condamne. En face, l'accusé ne peut pas se défendre, il est déjà condamné. C'est vrai que dans le cadre judiciaire, bon, ben, l'accusé a des droits. Hein. D'abord, il est présumé innocent jusqu'à la condamnation, et puis il a des droits pour se défendre. Dans l'histoire dont on parle ici, qui est l'affaire Julien Bayou, hein, je ne parle que de l'affaire Julien Bayou a demandé à être entendu à plusieurs reprises par la cellule de lutte contre la violence sexiste et sexuelle au sein de son parti, et il n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été entendu, et on lui a répondu que, comme l'enquête n'était pas terminée, il ne devait pas être entendu. Sauf qu'en fait, les accusations sont déjà sorties. Donc c'est vrai que, pour le coup, là, Nicolas Charbonneau voit juste. Hein. L'accusé ne peut pas se défendre, il est déjà condamné. C'est le supplice du sable mouvant. Plus il se débat, plus il s'enfonce. Il ne faut plus bouger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coupable. Surtout pas. Il y a des salauds qui doivent comparaître. Mais il y a des lois et des cadres juridiques pour cela. Prétendre, par exemple, que le sexisme et l'agression sexuelle, c'est la même chose, c'est entretenir une confusion malsaine. Le sexisme se combat par l'éducation. L'agression se règle au tribunal pénal. C'est ainsi, la loi ne met pas dans le même sac un misogyne et un violeur. Tout mélanger ne sert pas à la défense des femmes. Bien sûr, la justice a des défauts, hein, elle est lente, hein, parfois elle ne va pas dans le sens que l'on aurait aimé, mais elle est encadrée, il y a des textes, des professionnels, des sages. Dénoncé en place publique, jugé hors cadre, sans procès, n'est pas le signe d'une démocratie en bonne santé. Cela se passe aujourd'hui à la marge ou au sein, on ne sait pas très bien, d'un parti politique. Souhaitons que cela n'en dépasse jamais le cadre. Voilà. Je vous lis encore un petit peu. Bon, là, je replie le Figaro. Voilà. Figaro qui s'appelle bizarrement Le Parisien ce matin. Et puis on fait un sondage là-dessus. Je vous lis un peu. Gandalf, ce qui se passe, c'est tout le contraire de l'état de droit. Je vous lis. Alors, Rufus n'est pas d'accord avec l'édito. Autrement dit, pour Le Parisien, on ne change rien. Ces cellules internes sont un début d'évolution, mais qui est à améliorer. On va faire un sondage. Vous êtes plusieurs à trouver que l'édito est assez équilibré. Alors, Gerbette, je ne suis pas d'accord avec l'édito. Moi, j'essaie de lire tous les points de vue, c'est ça qui m'intéresse. Et puis même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Hein, si on n'est pas d'accord, moi avec vous, vous avec moi, nous ensemble. L'important, c'est qu'on puisse en parler. Ici, c'est un espace où on peut parler. Quand le dialogue n'est plus possible sur des sujets comme ça, c'est là où ça ne va plus. Donc même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Échangeons, échangeons, et on va et on progresse. En tout cas, on discute. Gerbet dit, je suis pas d'accord avec l'édito. Il occulte le fait que ces cellules sont en réaction à une justice imparfaite. En fait, non, il le dit l'article. Hein. Il le dit. Mais il dit que la solution, elle est pas bonne, quoi. Dire que notre justice est cadrée Et donc une cellule comme ça ne doit pas exister, c'est nier que la justice fait mal son travail, que la cellule est là en réaction à une imperfection. Dit Gerbette. Céry Dwayne, les femmes ne sont pas écoutées, les cellules sont essentielles pour les aider à aller porter plainte, par exemple. Moi, je pense qu'à un moment, là, ce qui me, en vous lisant et en vous écoutant, j'ai l'impression que de commencer un petit peu à comprendre ce qui se passe, je crois. Pas seulement ici, mais globalement sur ce débat. Moi, j'ai l'impression que voilà, parfois, il y a des logiques où chaque pensée est juste. C'est-à-dire les gens, par exemple, qui aujourd'hui affirment que seule la justice doit pouvoir traiter des cas d'agression sexiste ou sexuelle, ces gens ont raison. Dans un état de droit, c'est vrai. Les gens qui disent « Oui, mais la justice ne fait pas son travail », notamment sur ces questions spécifiques des violences faites aux femmes, et donc il faut des cellules pour compenser ça, des cellules d'écoute, des cellules de dénonciation, quelque part, c'est juste aussi. Ouais. Donc je pense que les partisans des deux camps ont le sentiment d'avoir raison. Peut-être qu'à un moment, thèse, antithèse, synthèse, peut-être qu'on peut arriver à une forme de synthèse qui dirait que effectivement il y a un truc qui ne va pas en France, et on l'a déjà souligné ici et dénoncé, les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes dans un pays comme le nôtre, cette lutte est insuffisante en termes de moyens, notamment donnés à la justice, voilà. Et le traitement de ces violences sexistes et sexuelles contre les femmes n'est absolument insatisfaisant. D'où la réponse, dans certains partis, essentiellement de gauche, de ces cellules d'enquête, parce que ce sont des cellules d'enquête. À un moment où je pense qu'on peut tenter une synthèse, c'est que c'est pas parce que le constat est juste que la réponse est satisfaisante. Et on est en train de se rendre compte quand même, peut-être, en tout cas c'est ce qu'a dénoncé Libération vendredi, on est peut-être en train de se rendre compte qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts, le comportement de cette cellule, ou en tout cas de certains membres de cette cellule, ou gravitant autour, peut-être que le comportement de cette cellule ou de ces personnes n'était pas à la hauteur du problème, quoi. Voilà. Avec par exemple le fait que, je donne un exemple concret, on dise à Julien Bayou qu'il ne peut pas être entendu, donc pour se défendre dans le cadre de cette cellule, parce que l'enquête n'est pas terminée, alors que l'enquête sort médiatiquement. Par exemple, là on sent bien qu'il y a un hiatus, il y a un truc qui ne va pas. Donc, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, ces cellules sont nécessaires, mais il faut les améliorer. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est un peu ce que je suis en train de me dire dans cette histoire. La Mandalorienne propose un autre regard et dit « Ces cellules doivent être des endroits d'écoute et d'orientation vers la judiciarisation des actes. » Ainsi, la justice ne fait pas assez bien son travail, c'est le travail des députés de la faire évoluer, mais en aucun cas, ils ne doivent se muer en juge improvisé, ils ne peuvent statuer que sur la place de l'accusé à l'intérieur du parti. La Mandalorienne estime que s'il devait y avoir des conséquences, des sanctions, eh bien, ça pourrait partir des dénonciations, l'écoute des femmes, de ces cellules, mais que la sanction, elle ne peut venir que de la justice. Voilà. Or là, la sanction, le fait que Bayou a été poussé dehors de ses fonctions, clairement, c'est venu de l'interne, c'est pas venu de la justice, quoi. J'ai même pas envie de faire un sondage parce qu'il n'y a pas un sondage assez fin dans la proposition qui va pouvoir refléter la complexité de ce débat. Ça n'a aucun intérêt. Si je vous demande, par exemple, pensez-vous que ces cellules d'enquête au sein des partis sont une réponse satisfaisante aux violences sexistes et sexuelles à l'intérieur des partis, vous voyez bien que c'est pas assez fin. Je vais même pas faire de sondage là-dessus. Voilà. John dit, en l'occurrence, c'était pas une cellule d'écoute et d'assistance, mais c'était une cellule de surveillance et d'enquête à charge. C'est ce que dit Libération dans son journal de vendredi. Pour le coup, Libé, c'est un journal en plus qui est parmi les quotidiens français, qui est plutôt en pointe dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Alors en plus, c'est vrai que du coup, je pense que c'est aussi pour ça que le dossier de vendredi a eu beaucoup d'écho. Quel est ton avis sur l'absence de défense, me dit Bon tout. Ouais. Je pense que vous m'avez entendu. Moi, je pense que c'est pas normal. Donc moi, je ne dis pas que Bayou est innocent. Hein. Voilà. Je ne dis pas qu'il est coupable. Je dis juste que dans une procédure d'accusation, il faut qu'elle soit contradictoire. Il faut que la personne puisse se défendre devant l'organisme qui l'accuse. Donc à un moment que lui ne puisse pas se présenter devant la cellule pour pour expliquer sa défense, ça pose problème, bien sûr, hein, on est d'accord, dans cette affaire-là. Parce que oui, certains disent que les accusés peuvent se défendre ailleurs. Rappelons qu'ici, manifestement, hein, cette cellule, c'est pas qu'une cellule d'écoute. Hein, elle s'apparentait à une cellule d'enquête avec des mails envoyés, signés donc a priori les Louves, quoi, les Louves Alpha, c'est ça? Envoyés à des ex de Julien Bayou pour essayer d'en savoir plus. Donc là, on est vraiment sur une enquête, quoi, pour le coup. Hein, c'est pas des femmes qui, de leur propre initiative, prennent contact avec la cellule pour témoigner, c'est la cellule qui enquête, qui provoque le témoignage, qui écrit les mails. Donc on est bien sur une enquête. Voilà. Après, toutes les cellules de ce type ne se comportent peut-être pas de la même façon, quoi. Donc là, attention, hein, faut pas confondre. Là, on ne fait pas entre guillemets le procès de ces cellules. On s'interroge sur le fonctionnement de cette cellule-là à un instant T dans ce parti-là. Hein. On est d'accord? Parce que c'est là où il faut pas devenir. Où il faut pas tout, comment dire, tout confondre, quoi. Hein. Là, la presse, Le Parisien ce matin, Libération vendredi, puis d'autres journaux, hein, s'interrogent sur le fonctionnement de cette cellule-là. Voilà. On va pas épuiser ce débat ce matin, mais c'est très intéressant d'en parler avec vous, en tout cas. Voilà. Moi, je prends tous les arguments. Hein. Nita dit, qui est une habituée de cette chaîne, ça fait des décennies qu'on demande aux entreprises, associations, etc., de balayer devant leur porte, de faire la prévention concernant les violences sexistes et sexuelles. Et quand elles le font, on les accuse de se faire justice elles-mêmes incohérents. Alors, dans ta phrase, il y a, on demande aux entreprises, associations, etc., de balayer devant leur porte et de faire de la prévention. Là, on n'est pas sur la prévention, là, on est sur de l'enquête. Et quand elles le font, on les accuse de se faire justice elles-mêmes incohérents. Mais tu vois, dans ta phrase, en fait, tu as deux choses qui sont un peu différentes. Parce que tu dis, ça fait des années qu'on demande aux entreprises notamment de faire de la prévention, et après tu dis, et quand elles se font justice elles-mêmes, on trouve ça pas normal. Mais prévention, faire de la prévention et se faire justice, bah, c'est pas la même chose. Hein? Et je pense que tu seras d'accord avec ça. Et puis, imaginons une entreprise privée dans laquelle il se serait passé ça. C'est-à-dire, je sais pas, prenons la même chose, c'est-à-dire une entreprise privée ou un cadre de haut niveau, voire le numéro 1, puisque là c'est le numéro 1 du parti. Qui, en raison d'une certaine pression, est poussé dehors, poussé à la démission, puisque c'est ça qui se passe là, on est d'accord, c'est pas lui qui a dit oh, tiens, je vais vous faire plaisir, je vais partir. Bah, je pense que si cette personne, en l'occurrence Bayou, va en justice pour dénoncer ça, pour demander des dommages et intérêts par exemple, en disant bah voilà, moi, j'ai été mis dehors, j'ai été poussé dehors, sans procédure contradictoire, sans qu'on m'entende, sans que je puisse me défendre, sans accès au dossier, sans savoir ce qu'il y avait dans le dossier, sans savoir de quoi on m'accusait, ben je pense que cette personne, elle gagne en justice, en fait. Elle gagne en justice. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Bon. Voilà. Bon. Vaste débat. Mais en même temps, alors je vais dire tant mieux. Tant mieux qu'il y ait ce débat. Parce que ce débat bah, permet malgré tout de parler de ces sujets et de parler des violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Et donc, ça c'est mon côté toujours optimiste, je pense qu'il va en rester quand même quelque chose d'intéressant et de positif. Voilà. Sur le fonctionnement de ces cellules, comment elles doivent fonctionner, sur le fait que la justice ne fait pas assez. Vous voyez, on le redit par exemple. Donc, j'espère qu'il en sortira quelque chose de positif. En tout cas, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'a jamais autant parlé de ces questions. Donc, peut-être qu'il y a un aspect positif à cette polémique quand même. On continue? Hein, on reviendra à ça, bien sûr, parce que je pense que ce feuilleton n'est pas terminé. On a passé un petit peu de temps sur Le Parisien, mais je pense que c'était nécessaire. Voilà. On va parler un petit peu du Burkina Faso, l'histoire du coup d'État, là. avec la main de la Russie notamment. Cette photo, elle est assez forte. Vous voyez des manifestants après le coup d'État au Burkina Faso, avec un drapeau russe que vous reconnaissez peut-être. Emploi des seniors, la France bat en retraite. En fait, il y a deux dossiers intéressants dans Libération, et ils sont tous les deux en une de Libé, l'histoire du Burkina et l'histoire des retraites. On va commencer par le Burkina Faso, c'était la une de la Croix aussi, qui a à peu près la même analyse, c'est-à-dire qu'il y aurait la main de la Russie, peut-être, derrière ce coup d'État. C'est important aussi de parler d'actualité internationale. Regardez cette image, ça c'est un groupe de militaires qui vendredi a annoncé à la télévision publique du Burkina Faso avoir démis de ses fonctions le président Damida, qui lui-même était arrivé au pouvoir par un coup d'État, je crois, en janvier dernier. Donc c'est coup sur coup d'État. D'ailleurs, c'est le titre de Libération ici. Lisons un petit peu les infos à ce propos. Voilà. Le chef de la junte arrivé au pouvoir en janvier, voilà, a confirmé ce dimanche qu'il quittait son poste à Ouagadougou. La situation reste incertaine sur fond d'hostilité contre la France et de manifestations pro-russes. Donc on a un coup d'État, on a des manifestations d'hostilité très fortes contre la France, et puis on a l'interrogation sur le fait que la Russie ait joué un jeu là-dedans. Le 11e coup d'État de l'histoire de la Haute-Volta, devenu Burkina Faso en 1984, désormais acté, aura été un drôle de putsch. Le précédent, le 24 janvier, avait été plié en 2 jours, débutant par une mutinerie dans une caserne discrètement infiltrée par les putschistes, se soldant dès le lendemain, c'était très rapide, à 17h30 par un communiqué lu à la télévision nationale, vous avez les images ici, avec déjà cet impératif de renforcer la lutte contre les groupes armés terroristes responsables de la mort de 10 000 civils et militaires depuis 2015, selon les autorités. Un des éléments. Non, on ne dit pas Burkina, on dit Burkina. Moi, j'ai toujours dit Burkina. Je sais pas. Il y a Overtorque qui dit qu'on dit Burkina. Ah, moi, je dis Burkina. Depuis toujours. Comment vous dites-vous, sondage? J'ai toujours dit Burkina, moi, le Burkina Faso. Mais peut-être que c'est Burkina. Votre avis, vous, il y a des spécialistes? Burkina, 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 c'est un U. Bu. Ah ben, U. Ah, sondage. Bon. Bah, sondage, ou alors, vous savez quoi, on va essayer de trouver sur Internet. Moi, je suis open, hein. Bon, après, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus essentiel, la prononciation de. Mais bon, Burkina, prononciation. J'ai trouvé un article du Guide du Routard qui dit que sur place on dit Burkina. Selon Wikipédia, les deux prononciations sont possibles. Ah d'accord, ok. Bon, en même temps, le Guide du Routard, c'est vrai que c'est peut-être pas la source. Mes profs de fac disent Burkina. Il y a un article sur le wiki là-dessus qui parle de la prononciation. Burkina Faso, pays Afrique de l'Ouest, bim. Un petit coup de wiki. Prononciation Burkina ou Burkina. Ah, d'accord, bon, on n'est pas plus avancé. Bon, bah alors, okay. Alors on dit comme on veut. D'accord. On s'en fout un peu? Oui et non, bah, en même temps, voilà. Mon ancien chef burkinabé disait Burkina, me dit Buginer. Voilà. Je crois que c'est U, me dit Cyril Dwayne. Rukyata Audrey Ogo sur France Inter, je crois qu'elle prononce O. D'accord. Bon, bah, vous savez, je reste sur U, mais vous avez le droit de prononcer O. D'accord? Voilà. Bon, ça m'intéresse. Bah, je savais pas que, ça m'intéresse, je savais pas qu'il y avait un débat là-dessus. On revient donc. Alors, ça, c'est intéressant, cet élément. C'est-à-dire que derrière ces coups d'État, il y a notamment, en fait, la question de la lutte contre le terrorisme qui a fait 10 000 morts civils et militaires depuis 2015. C'est intéressant à savoir. À la manœuvre, donc, de ce coup d'État, comme de celui de janvier dernier, c'est à peu près les mêmes hommes, emmenés par l'unité Cobra, issue des forces spéciales, mais cette fois se greffent aussi des hordes de militants déchaînée contre la France, c'est ce qui est nouveau par rapport au coup d'État de janvier. La situation apparaît vite incontrôlable, attaque contre l'ambassade de France à Ouagadougou, l'Institut français de Bobo-Dioulasso, hein, qui est la deuxième ville du pays, et dont de nombreux symboles français à travers le pays. Appel à la violence contre l'impérialisme, relayé sur WhatsApp, appel à la violence contre les Français, et cette constance, dans les slogans comme dans les audios, la célébration de la Russie. Ça, c'est nouveau par rapport à janvier dernier. Tous les regards se tournent vers la société de mercenaires russes Wagner, dont vous avez entendu parler, et le scénario malien, parce que c'est vrai que c'est étrange, c'est un petit peu ce qui s'est passé au Mali. C'est quelques mois après le putsch dans le putsch du 24 mai 2021, donc au Mali, que les paramilitaires russes se sont déployés dans le centre du pays pour appuyer la lutte antiterroriste. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que ça rappelle quand même des choses qui se sont passées au Mali. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures au Burkina Faso ? Eh bien, des drapeaux russes flambant neufs, en nombre, dans les rues, parfois brandis du haut d'un char. Là, et puis ces slogans, la France se nourrit du sang des Africains, la Russie ou rien, la France à la poubelle. Le sentiment anti-français et pro-russe est tellement puissant que les Russes n'ont même plus besoin de trolls ou d'officines. Le chariot est lancé, résume un observateur. C'est un gros article, hein, c'est un article de 4 pages dans Libération. Et vous avez effectivement l'angle ici un petit peu développé, bien du ressentiment anti-français contre dans le pays. Je remercie les derniers subs, pardon. Les bazars et Laura, merci pour le 3e mois d'abonnement. Dans les rues burkinabées, Paris pris à partie. Ces deux dernières années, le sentiment anti-français n'a fait que croître dans les pays du Sahel, parce que c'est pas que dans ce pays, c'est dans la région. Soumis à une insécurité terroriste, c'est très intéressant parce que moi je crois que j'avais jamais lu un truc aussi clair sur cette histoire. Donc sentiment qui n'a fait que croître dans la région du Sahel, soumis à une insécurité terroriste qui semble impossible à résorber. Quelqu'un me demande d'où vient ce ressenti par rapport à la France. Eh bien je crois l'avoir compris avec cet article. Le désespoir des populations face à cette guerre asymétrique s'est retourné contre la France, qui pendant 9 ans et jusqu'à très récemment avait mobilisé la plus vaste opération militaire depuis la guerre d'Algérie pour combattre le djihadisme dans la région. Or, malgré d'incontestables succès ponctuels, les groupes armés ont défendu leur emprise. Partie du Mali, l'insécurité s'est propagée au Niger et depuis 2016 au Burkina Faso. Chaque foyer burkinabé a perdu un proche dans cette guerre et comme au Mali, les gens ne comprennent pas pourquoi cette intervention militaire française n'a pas pu mettre un terme aux attaques terroristes. Hein, c'est Alain Dabilougou qui dirige un centre de veille des médias à Ouagadougou qui fait ce constat. Depuis son poste d'observation, il a aussi pu mesurer l'effet toxique des réseaux sociaux qui répercutent et amplifient la moindre rumeur. Donc ça, c'est vraiment la plaie de l'information, quel que soit le sujet, d'ailleurs. Depuis, notamment, la rumeur d'une prétendue, écoutez bien, d'une prétendue aide secrète des militaires français aux groupes djihadistes. Donc il y a des gens au Mali, au Burkina Faso, qui sont persuadés que la France, en fait, aide les terroristes. Soupçon qui peut paraître aberrant, puisque parallèlement la France lutte contre les groupes terroristes, mais qui s'est nourri de l'opacité qui entoure les actions sur le terrain. Une animosité qui a été largement exploitée par un nouvel acteur qui s'impose sur ce terrain sensible, la Russie, qui est devenue le partenaire privilégié des militaires au pouvoir au Mali, la Russie qui depuis quelques années essaye de s'implanter en Afrique. C'est du Mali que vient la propagande qui abreuve aussi le Burkina via des groupes WhatsApp. On y vante le succès des mercenaires russes de Wagner sans jamais faire mention de leurs échecs. Reste que les trolls russes ne suffisent pas à expliquer l'ampleur du sentiment anti-français, qui reflète aussi le rejet d'une attitude perçue comme arrogante de la part de l'ancienne puissance coloniale. Macron a souvent des paroles maladroites donnant l'impression qu'il décide de tout au Sahel, souligne un spécialiste de la sécurité et de l'antiterroriste à Ouagadougou. Quelqu'un me disait, c'était la bonne question, mais comment expliquer ce ressentiment anti-français dans ces pays de la région, au Mali, ici au Burkina Faso? 3 éléments évoqués par l'article. 1. Le comportement de la France, l'ancienne puissance coloniale, parfois de la morgue, de l'arrogance. 2. Une lutte menée par l'armée française contre le terrorisme qui n'a pas réussi, voilà, avec les interrogations par rapport à ça. Et puis 3. Le jeu trouble de la Russie, bien sûr. Voilà ce qui explique. Et puis 4. Les rumeurs, les fake news, les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Voilà, intéressant, hein. Je vous lis un petit peu. Il y a Renan qui connaît un petit peu le pays, parce que je vois que tu es allé 2 fois au Burkina. Merci pour l'abonnement, en tout cas. Renan Guenouf. Je vous lis un petit peu là-dessus. Certains connaissent un peu le pays ou pas? Ouais, alors on pense ce qu'on veut de la presse française, d'un journal en particulier, mais quand on écrit à propos d'un quotidien français, ce journal c'est vraiment mieux que le PQ pour se torcher. En fait, moi ce qui me gêne, c'est la façon de s'exprimer. Que quelqu'un me dise par exemple, ah, je suis pas du tout d'accord avec la ligne éditoriale de ce journal, qui me semble insuffisante de réflexion, voilà, ou avec des prismes qui me semblent pas pertinents. Bon, mais voilà, et dire, c'est la même idée. Ce journal, je me torche le cul avec. Bon, ça a aucun intérêt. C'est absolument pas la façon dont j'aimerais qu'on s'exprime ici. Donc ça, c'est un petit ban temporaire pour notre ami. Ah, ça, c'est pour toi. Voilà. Et tu seras d'accord. Je suis sûr que tu seras d'accord pour dire que tu pouvais exprimer la même idée de façon un tout petit peu plus correcte par rapport aux gens qui te lisent dans le chat. Ça crée une ambiance qui est vraiment pas terrible, quoi. Ban provisoire. Ici, on tend toujours la main. Voilà. Quelle que soit votre pensée, exprimez-la de façon un peu ouais, pertinente, quoi. C'est pas cool. Parce que du coup, vous vous rendez pas compte que ça crée un climat qui est pas très sympa, quoi. Ouais, puis comme le dit Sexitor, l'avantage du journal numérique, c'est que de toute façon, on peut pas se torcher avec. Ou alors, ça va coûter cher en tablette, quoi. Voilà. Voilà. Bon, parlons un petit peu des retraites, parce que Libération dit autre chose ce matin en sa une. C'est à propos des retraites, c'est bonne journée Malimka. C'est ok, on nous demande de, enfin on nous dit qu'on va travailler plus longtemps, hein, qu'on va prendre nos retraites plus tard, qu'on va peut-être repousser l'âge légal de départ à la retraite, qu'on va peut-être devoir cotiser plus longtemps. Mais alors comment ça se passe dans un pays qui laisse pas travailler les seniors justement, hein? Emploie les seniors, la France bat en retraite. Ça c'est du titre. Le taux d'emploi dans notre pays des 50-64 ans reste très faible, notamment par rapport à nos voisins et notamment par rapport à les pays de l'OCDE. Le problème va s'accentuer avec le recul de l'âge de départ voulu par Emmanuel Macron. Voilà. Lisons. Qu'est-ce que veut nous dire Libé ce matin là-dessus? La France, dans, non pas la fleur de l'âge, mais dans la peur de l'âge, bon, Libé, ils sont forts pour les titres, repousser les départs à la retraite risque de gonfler le taux de chômage des plus de 50 ans. On ne va pas pouvoir discuter de l'allongement de la durée de carrière si on ne résout pas le sort de tous ceux qui sont mis dehors avant la retraite. Ça, c'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui le dit, qui était notre invité ce matin à 8h30 sur France Info d'ailleurs. Au moment de liquider ses droits à la retraite, près d'un assuré sur deux n'est déjà plus dans l'emploi. Hein? Lisons l'édito de Lorraine Provost à ce propos. Malgré un premier mandat, donc là on parle du président Macron, il est loin d'avoir réglé un paradoxe majeur. Le président Macron souhaite aujourd'hui l'allongement de la durée de la carrière, bon ça on a bien compris, mais il a oublié de s'assurer que les Françaises et les Français peuvent encore avoir une carrière après 50 ans. La proportion de seniors en activité en France est en deçà de la moyenne des pays de l'OCDE. Les grands exclus sont les individus entre 60 et 64 ans. À cet âge-là, ils ne sont plus que 35,5% à encore exercer un métier, un gros tiers quoi. Les autres ont sans doute pris un plan, obtenu une rupture conventionnelle ou sont au chômage en attendant de réclamer le versement de leur pension de retraite. Car les gouvernements se sont tous d'ailleurs hein, successivement cassé les dents sur la tradition française des départs précoces, des pré-retraites et autres arrangements des entreprises pour se débarrasser de celles et ceux qui sont en fin de carrière. Les entreprises n'ont pas trouvé mieux pour alléger la masse salariale parce que les salariés âgés, évidemment, c'est souvent, pour pas dire toujours, ceux qui coûtent le plus cher. Libération interpelle son lecteur, vous vous sentez pas concerné? Ben, sachez quand même que dans une entreprise, on est considéré comme senior à partir de 50 ans. Merci, boîte à musique pour les beats, c'est gentil. PHTL, merci beaucoup pour les deux deuxième mois d'abonnement. Il y a des gens qui ont plus de 50 ans là dans le chat. Hein, vous êtes des seniors. Dans le monde de l'entreprise, vous êtes des seniors. Votre expérience fait de vous une main-d'œuvre coûteuse, dure à diriger, moins productive selon les préjugés en vigueur. Il serait donc temps d'en finir collectivement avec le gâchis des travailleurs les plus expérimentés et le déni de vieillesse dans un monde du travail qui n'a jamais été aussi peu attractif. Voilà. Alors, Cyril rappelle que moi, je ne suis pas encore un senior puisque je n'ai que 43 ans. On n'avait pas dit 42 tout à l'heure? Bon, peu importe. Sarah Molite, mon beau-père a résolu ce problème. Il est devenu auto-entrepreneur pour ces dernières années. Ben oui, c'est ce qui se passe parfois. On trouve des solutions. Merci El Chasto pour le deuxième mois d'abonnement et pour le petit message. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Hein, d'un gouvernement qui s'apprête à faire travailler les Français plus long, alors que l'activité des seniors est problématique en fait, les plus de 50 ans dans les entreprises. Je vous lis, puis on enchaîne. On va aller en Iran après, avec l'humanité. Mankin Peace, mon père est parti à 55 ans avec prime. Moi j'ai 50 ans, il me reste 20 ans à bosser. Aïe 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 aïe. Réglisse sans sucre, moi je fais partie des plus de 60 ans en dispense d'activité en attente de la retraite. Le taux d'activité des seniors augmente régulièrement en suivant le report de l'âge de la retraite, il faut le préciser. Idriss, tu as raison. L'article de Libération le dit d'ailleurs, que ça augmente un peu, mais que c'est insuffisant. Mais tu as raison, c'est dans le dossier. Légari premier, qui lit peut-être Valeurs Actuelles. Si vous lisez en public Libération, pouvez-vous lire aussi Valeurs? Alors d'abord, je ne lis pas que Libération, je lis le Libération, Le Figaro, L'Opinion, Les Échos, L'Humanité, Le Parisien, je ne sais pas si je l'ai dit. Et donc je ne lis pas Valeurs. D'abord parce que je lis les quotidiens, et Valeurs est un hebdo. Et je n'ai pas le temps de lire les hebdos, sinon mes revues de presse dureraient 10 heures tous les jours. Donc, et je dors déjà pas beaucoup. Donc je ne lis pas Valeurs. Parce que c'est un magazine et aussi parce que franchement le contenu je le trouve pas intéressant et pertinent. Voilà, sur l'actualité. Et pour le coup, si je commençais à lire Valeurs, il faudrait que je lise plein d'autres hebdos avec des couleurs politiques un peu différentes, parce que Valeurs a quand même une couleur politique assez nette, on va dire plutôt par là quoi. Et donc il faudrait que je lise des hebdos avec un autre regard, parce que sinon bah, ce serait de la propagande si je lisais qu'un truc. Donc moi je fais ça avec les quotidiens, c'est-à-dire je vous lis des journaux qui ont chacun des regards très très différents, pour simplifier, voilà, parfois un regard de gauche, parfois un regard de droite, parfois un regard conservateur, parfois un regard progressiste, parfois un regard avec des valeurs chrétiennes et catholiques, la croix, parfois avec une histoire liée au Parti communiste, l'humanité, parfois un journal très très libéral sur le plan économique comme l'Opinion, etc., 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 etc. Alors si je me lance là-dessus pour les magazines, je vais y passer ma vie, quoi. Ouais, mais Valeurs Actuelles, en vrai, non. Mais tu peux le lire, hein, y a pas de problème. Hein. Cette droite valeur, oui, c'est de droite, ouais, comme tu le dis. Ouais. Il y a Rachid qui demande si c'est de droite. Ouais, c'est très à droite, très à droite. Droite-droite. Hein. Le Figaro, c'est des dangereux communistes à côté de Valeurs Actuelles, quoi. Voilà. Alors, Jugrave dit et alterner hebdo et quotidien. Je vais être cash là-dessus. Bon, je me trompe peut-être. Moi, j'ai beaucoup lu les hebdos, les magazines à une époque. Et en vrai, maintenant que je lis les quotidiens de façon extrême, c'est-à-dire tous les quotidiens, tous les jours, en gros, je trouve que les hebdos ne m'apportent rien. Parce qu'au moment où je lis les hebdos, bah, je me dis, ben oui, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà. Oui, ben ça, oui, ça, on l'a déjà lu, ça, d'accord. Et en fait, alors, moi, à une époque, notamment journaliste, jeune journaliste, voilà, ou étudiant journaliste, j'ai beaucoup lu les hebdos. Et maintenant que je lis énormément la presse quotidienne, ben en fait, je trouve que ces hebdos m'apportent rien. Alors, est-ce que ils sont moins bien qu'avant? Est-ce que c'est moi qui est tellement sur l'actu par France Info et mes lectures des quotidiens qui du coup n'y apprend plus grand-chose? Voilà. En tout cas, voilà, je le dis, hein, j'ai plus de plaisir à lire les magazines et les hebdos. J'en ai plus. J'en ai plus. J'en ai plus. Voilà. Et donc, je continue à les lire parce que de temps en temps, à France Info, j'en reçois, par acquis de conscience, en disant, bah, c'est bizarre quand même. Donc, je lis de temps en temps ces hebdomadaires et je les parcours au boulot ou ici et je ne vous en parle pas parce qu'en vrai, je trouve rien de très très intéressant dedans. Je préfère vraiment la presse quotidienne nationale que je vous propose tous les matins. Je trouve que c'est plus intéressant, plus riche. Captain Crochet, est-ce que ces hebdos n'apportent pas une lecture plus apaisée avec un peu plus de recul sur l'actu traitée de manière brûlante par les quotidiens? Non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que les hebdos, justement, ont des lectures qui sont plus politiques, plus engagées. Voilà. Où ils sont beaucoup plus, non pas dans l'exposé des faits, mais encore plus dans l'analyse, dans le truc, dans l'espèce de. Et franchement, et je lis des tartines et des tartines et des tartines d'analyse. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Et puis par exemple, certains me disent, et c'est intéressant, ah oui, mais les hebdos, c'est peut-être pour les gens qui n'ont pas le temps de lire un quotidien, et donc ça résume l'actu de la semaine, mais même pas. C'est là où je trouve que ces magazines font pas leur boulot, en fait. Parce que justement, un hebdo, on pourrait dire que ça revient sur l'actu de la semaine, toute l'actu, voilà, et pour permettre aux gens de rattraper un petit peu leur retard. Bah c'est même pas ça. Un hebdo aujourd'hui, c'est vraiment aller voir l'Express, l'Obs, Le Point, Marianne, voilà, tous ces journaux. Bah en fait, c'est pas du tout l'actu de la semaine. C'est vraiment un choix très restreint de certaines thématiques qui souvent sont chères à ce magazine-là. Et puis avec des gros dossiers, des gros coups de projecteur, voilà, avec des dossiers qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Voilà. Comme le dit Idriss, ils sélectionnent les actualités selon leur prisme. Beaucoup plus, je trouve, que les quotidiens, en fait. Voilà, Jaco dit c'est de l'éditorialisme à fond. Bah, c'est un peu ça, voilà. C'est mon ressenti aussi. Et je me trompe peut-être, mais je kiffe pas trop. Ça me fait un peu chier. Voilà. Donc voilà pour les retraites. Mais merci à Corim. Welcome. Le 1, j'aime bien. Le 1, j'aime bien. Le 1, j'aime bien parce que le 1, bah, le magazine Le 1, c'est un journal qui vous dit pas, on revient sur toute l'actu de la semaine. Le 1, c'est un sujet, un seul sujet, mais exploré à fond. Chaque semaine. Un dossier, un sujet, une actualité, et puis ils creusent, ils réfléchissent, ils vont voir des spécialistes et tout. Bon, c'est une autre démarche. Mais les hebdos classiques, ce qu'on appelle les news mag, en vrai non. J'ai aimé, j'aime plus. Ah oui, ah, j'ai oublié l'horoscope. Ok. On va faire un jeu. Le premier qui répond à cette question en me donnant son signe astrologique en même temps, sinon ça marche pas. Eh bien, je lui lis son horoscope du Parisien, j'ai oublié. Alors, question. Ah, je sais. Lié à une musique qu'on a passée ce matin sur France 2. Quel artiste vient de sortir un titre pour le prochain jeu vidéo Pokémon? Putain, mais comment vous savez ça? Il y a Mathieu qui a répondu Ed Sheeran. Mais genre. Ah, Mathieu, toi, t'étais sur. Ah, mais non, mais t'as oublié de mettre ton signe astrologique! Vite, 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 vite! Vite, 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 il me faut le signe astrologique! Vite, vite, vite! Chucky Max a gagné, du coup. Ah, non, non, t'as écrit Ed Sheerana. Ah, je suis désolé. Il me faut la bonne orthographe. Ah, désolé, Chucky Max. Bélier, Ed Sheerana. Non, Sheerana, c'est un autre chanteur. C'est pas terrible ce qu'il fait. Juste dessous, janvier, Scorpion, Ed Sheeran. Exactement. Ah oui, il y a quelqu'un qui avait trouvé la bonne réponse très très vite, mais qui a oublié de donner son signe astrologique. C'est Ed Sheeran qui vient de sortir un morceau que j'ai écouté ce matin, qui est plutôt sympa d'ailleurs, pour le prochain jeu vidéo Pokémon. Je dis pas de bêtises, c'est Pokémon? Hein, c'est Pokémon? Vous confirmez ou pas? On lira Scorpion. Hein, c'est Pokémon, hein? Vous confirmez ou pas? J'ai pas dit de bêtises, parce que si j'ai dit de bêtises, on refait le jeu, hein. On va chercher. Ed Sheeran. La chanson est sympa en vrai. J'étais un peu sceptique ce matin. Ed Sheeran avec deux E et Pokémon. Ouais, Celestial. Celestial, ouais, c'est ça. Regardez. On va trouver une source. On va pas l'écouter, c'est interdit. On va pas l'écouter, c'est interdit d'écouter. On n'écoute pas. Hein. On n'écoute pas. Hein. Interdit. Hein. Voilà. Interdit, hein, c'est interdit. Hein. N'écoute pas, d'accord? On va lire Scorpions un instant. Ouais, c'est Pokémon! C'est Pokémon! Ouais. Oh putain, merde! Ah, c'est. Ah, zut! Non! Oh, saloperie de. Désolé, c'est le vidéo là. Ah, le scorpion! Non, bon, allez, écoutez, c'est pas mal. Celestial. Celestial. Ça s'écrit C-E-L-E-S-T-I-L. Celestial. Et ça rime avec Bestial. Bestiole. Celestial. Bestiole. Pokémon. Ah! Je me suis dit ça ce matin. On est scorpion? Let's go. Non, mais le morceau est sympa. Alors, scorpion. Winnie Sam, tu veux pas faire le signe de ta femme? Bah non, non, c'est scorpion qui a gagné. Enfin, il y a des règles dans la vie, hein. Non mais, bande de punk. Scorpion, cœur. Vous vous sentirez plus à l'aise en amitié qu'en amour. Ok. Vous vous sentirez plus à l'aise en amitié qu'en amour. Je sais pas si c'est bien ça. Ouais. Réussite. Vous verrez votre situation professionnelle sous un autre angle. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez. Si t'es là par rapport à ton taf, eh ben tu vas te mettre là en fait. Et ça change tout. Ok, bien joué, Scorpion. Forme. Vous devez vous ménager davantage. Mais ça, je le dis souvent, ça. Je le dis souvent, ça. Les scorpions, vous êtes trop à fond. Mais ça, c'est les scorpions, ça. Les scorpions, ils sont trop à fond. Ouais, ça, c'est les scorpions, ça. Oh, quelqu'un qui se marie ce week-end. Il y a Papa Rino qui se marie ce week-end. Pourquoi tu parles de ton mariage, Papa Rino? Qu'est-ce qui se passe? L'histoire de mariage, c'est quoi ça? Oh, j'aimerais bien retrouver ton message, ton mariage pour te féliciter. Je trouve pas. Désolé. Ben, bon mariage alors. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Si on allait se faire un petit café avant de parler de l'Iran, parce que l'Iran, il faut qu'on prenne le temps. Regardez ça. Hein? Voilà. La semaine décisive en Iran, pourquoi? Les Iraniennes. Ah, j'ai compris. La personne qui va se marier, qui est donc plus à l'aise. Selon l'horoscope, en amitié qu'en amour, ça doit être un scorpion. J'ai compris. Ah, c'est ça, il est scorpion, mais il se marie ce week-end. Ah, Audrey Pucci est allée écouter le titre de Ed Sheeran, c'est sympa, et le clip aussi. J'ai pas vu le clip. Les Iraniens veulent transpercer le pouvoir. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut absolument parler de l'Iran, genre tous les jours, en ce moment. Quelle heure il est? J'ai eu le temps de me faire un petit café ou pas? 1h39. Ok, vous êtes d'accord? Je vais me chercher un petit café? Vous validez ou pas? Oui, café? Allez. Et puis vous aussi, hein? Hein? Un petit verre d'eau, une petite tisane. Hein? Un petit... Ok, let's go. Né comme ça, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement, c'est adorable. El Chasto, je crois que c'était remercié tout à l'heure. Ouais. On fait ça? Allez. Ah, vous êtes gentil, vous êtes adorable. Donc, je vais me chercher un petit déca. Je me dépêche. Il y a Cyril qui dit: Ah, que j'aime ce genre de coup de fil. La dame se présente comme étant du service éco-habitat. Elle veut me parler de prime rénov, tout ça, sauf que quand je lui demande des précisions sur ce service éco-habitat, elle ne sait pas quoi répondre et me raccroche au nez. J'adore. J'adore. Ça tombe bien, il faut que je restarte mon PC. Eh bien, vous voyez, petit cafot. Tiens, vous voyez, j'ai besoin. Petit café, petit redémarrage de PC. Je vous laisse à vos petites histoires. Je reviens dans 3 minutes. avec une petite musique que je vous ai calée tout à l'heure. C'est pas Ed Sheeran parce qu'on n'a pas le droit, c'est autre chose, c'est du rock and roll. 3 minutes de musique, 3 minutes de musique pour ceux qui sont abonnés, un petit peu de pub pour ceux qui ne le sont pas, c'est une façon de soutenir, ne m'en voulez pas. A tout de suite, bande de beaux gosses. On n'a pas terminé. On parlera notamment d'une intelligence artificielle, une femme robot IA qui vient de prendre la direction d'une entreprise de 6000 personnes en Chine. Oui, 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 une dinguerie. A tout de suite. Tout de suite. Go. We'll be right back. Y a pas de tatoué dans cette pièce, vous êtes fou ou quoi? Hein? Van la TV, merci beaucoup pour ce 12e mois d'abonnement Skydark 37. Merci pour le 5e mois, c'est trop gentil. Ça va vous? Vous êtes prêts pour la deuxième partie de la matinée, Étienne? Ouais? À quand une émission où on parlait de tatouage? Ouf, je pense qu'il y a d'autres qui feront mieux que moi. Tu as vu l'allocation prévue de Macron à midi? L'allocution, je pense que t'as une lettre qui est partie en sucette. Quoi? L'allocution du président Macron? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, en vrai? Il parle là? Ouh, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Il veut pas les retraites? Allocution Macron. J'ai décidé de nommer Samuel Etienne Premier ministre. Il le sait pas, c'est une surprise. Oh, bah non, 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 pas du tout, parce que j'ai des trucs à faire moi déjà. Allocution. On va vérifier cette info. Allocution actualité. Non, j'ai rien, Macron. J'ai rien. Qu'est-ce que c'est que cette info de chat? Hein? J'ai zéro allocution, moi. Qu'est-ce que c'est carabistouille? Vous avez une allocution du président, vous? On aurait préféré une allocation, oui, ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Vous l'avez, hein? Sur YouTube? Quoi? Sur YouTube, sur sa chaîne à lui? What? Quoi, alors là, sur YouTube? Moi je vous écoute, hein, moi je vous écoute, hein. Moi je fais des efforts, hein. YouTube. Il a fait une allocution sur YouTube. Emmanuel Macron. Bon, déjà, allons trouver la chaîne de. Ok. Alors, on est sur la chaîne du président. Alors, c'est où est-ce que c'est à 12... Mais c'est écrit où là? Où il faut que j'aille où, les amis, là? Votre truc là. Où est-ce que vous avez l'info? C'est à 12h. C'est dans 19 minutes. Ouais. Dans vidéo? Ok, vous êtes fort, hein, quand vous savez tout ça? Ben, c'est marqué où? Clique sur vidéo. Dans vidéo, une méthode nouvelle. À venir. Ah, vous êtes fort! Dans 17 minutes. C'est quoi ce maquillage? Il est bronzé du front, mais pas du reste. Excusez-moi. Très bizarre. Ah ouais. 95 spectateurs en attente. Je m'adresse à vous pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous allons mettre en œuvre. Oh, il a un col roulé! Excellent! Mais oui, vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer qu'il mettait un col roulé. Mais oui, comme le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, un col roulé. Ah, il n'a pas mis une doudoune comme Elisabeth Borne. Bah oui, c'est la sobriété énergétique. Par contre, c'est bizarre qu'il est bronzé du front et pas du bas. Ah ouais, tu vois. Donc il n'y a plus de budget chauffage à l'Élysée, col roulé, il n'y a plus de budget maquillage non plus. Donc on ne maquille que le haut. Je suis méchant, mais en vrai, c'est bien. Bizarre quand même. Donc, alors, de quoi va-t-il parler? Je m'adresse à vous pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous allons mettre en œuvre. Ouais. Ensemble, nous trouvons les solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre vous. Ma déclaration. C'est une chanson, ça, ma déclaration, non? Non, c'est pas une chanson? Hein? Ma déclaration. Non? C'est pas Jennifer? Non. C'est qui? Porte ton nom, voilà, c'est ça, ouais. Non, c'est ma résolution, je sais pas. Ma déclaration d'impôt. Ah, c'est Michel Berger? D'accord, ok. Ok. Bon, alors c'est. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Tout cas, il n'y a pas grand monde, hein. On est que. Ah bah on est plus déjà, il y a 122 spectateurs en attente. Bon bah on va se mettre un réveil alors. Attends, on va se mettre un réveil, on va regarder ça. Hein. Alors attends. 11h43, c'est midi, on va se mettre un réveil. On va se mettre à 11h58. Un petit 11h58. Bon, je suis pas sûr qu'ils choisissent YouTube pour annoncer un truc. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, c'est peut-être l'Elysée. Pour me dire faut que j'arrête de mes bêtises. 11h58, on regarde ça? Hein? 122 le flop. Oui, ça fait pas grand monde. Hein. 139 personnes en attente. Non, 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 c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ok, bon, je me suis mis un réveil. Je me suis mis un réveil. Ok, bah merci pour l'info. Étrange quand même. Moi j'ai envie de vous parler de l'Iran ce matin et je remercie l'humanité, voilà, de consacrer sa une ce matin à l'Iran. Alors ça c'est ce titre m'a intrigué. Semaine décisive en Iran, dit l'humanité ce matin. Sous pression, les autorités iraniennes pourraient accentuer la répression face à une population dont la détermination ne faiblit pas. Alors moi dans un premier temps c'est mon côté optimiste. Je me suis dit quoi, la semaine décisive, est-ce que l'humanité pense que la mobilisation des Iraniens, des Iraniennes pourraient faire tomber le régime ou en tout cas obtenir quelque chose pour notamment les droits des femmes dans ce pays. Et en fait, non, la crainte de l'humanité, c'est que la répression devienne plus sanglante encore. Voilà. Hop. Merci Cornelius. Merci Phaistos. Oh, ils sont là. Merci beaucoup. Merci. Les Iraniennes veulent transpercer le pouvoir, titre Luma ce matin, avec ces manifestations qui entrent dans leur troisième semaine déjà. La détermination des protestataires n'a pas faibli face au silence pour l'instant du guide suprême qui n'a pas dit un mot, Ali Khamenei. Pour le régime islamique, la répression est la seule réponse. Le pouvoir iranien sort les dents, montre ses crocs, envoie ses milices dans les rues pour tenter de juguler la révolte. Rien n'y fait. Les ministres de l'Intérieur et du Renseignement peuvent bien menacer les groupes terroristes affiliés à l'arrogance mondiale. Donc ça, c'est un communiqué de Téhéran. Ils en sont pour leurs frais. Les coupures d'Internet ne parviennent pas à empêcher la diffusion des images de ces Iraniennes bravant l'ordre établi en brandissant fièrement leur foulard au-dessus de leur tête. Je pense que vous avez vu des images, hein, de ces manifestations. Les habitués sont là. Soukrou Malachou, merci pour le 12e mois. Le slogan « Femme, vie, liberté » dont je vous ai déjà parlé s'est répandu dans tout le pays. Les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme kurde de 22 ans, iranienne d'origine kurde, alors qu'elle était entre les mains de la police des mœurs pour tenue inappropriée, ne fléchissent pas. Pour preuve, samedi, les rassemblements qui jusque-là commençaient vers 18h à la tombée de la nuit ont démarré plus tôt, signe peut-être, écrit Luma, que les jeunes femmes et hommes ensemble sont prêts à affronter les légions de la répression. Les agents civils sont d'ailleurs très vite repérés. Pour se reconnaître entre eux, ils portent une sacoche en bandoulière, ce qui n'a pas échappé à la sagacité des vrais manifestants habitués à ces infiltrations. Même les raids des policiers à moto, matraques à la main comme s'ils jouaient au polo, sont souvent déjoués. Des images montrent ces policiers désarçonnés, roués de coups, avant de s'enfuir ou de sortir leurs armes et tenter de blesser ces policiers, voire de tuer un ou deux manifestants. Conclusion de l'article signé Pierre Barbancet. Dans les jours qui viennent, la confrontation va se tendre entre une population d'un côté déterminée et un régime qui l'étouffe, secondé par un gouvernement qui ne lui permet pas de vivre décemment. La répression a déjà fait au moins 92 morts. La faiblesse du pouvoir pourrait néanmoins s'avérer une arme fatale dans sa volonté de maintenir ses positions et d'éradiquer toute volonté de changement, surtout quand celle-ci est menée par des Iraniennes qui lèvent leur voile, le voile sur leurs conditions. Voilà. D'où l'inquiétude de l'humanité. En fait, la semaine décisive, c'est parce que j'ai l'impression que l'UMA craint un bain de sang en Iran dans les prochains jours. C'est chaud, hein? On a lu pas mal d'articles sur l'Iran, on va continuer à le faire ici, bien sûr, avec ce sentiment d'impuissance, un petit peu, savoir qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'occidentaux pour soutenir le combat de ces hommes et de ces femmes iraniens. Voilà, on retweet, on partage les images, on en parle ensemble, mais ça me paraît très très léger. Très très léger par rapport à ces combats pour la liberté. Ouais. On ira voir le président Macron à midi. C'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. C'est vous qui m'avez prévenu là-dessus. On ira voir, on ira voir. Je vous lis un petit peu sur l'Iran et on parle du Brésil avec cet article dans quelques secondes. Ouais, Arca le dit et Luma l'évoque. Aucune communication de l'ayatollah Khamenei depuis 2 semaines. Il y a des rumeurs qui courent qu'il est mort, qu'il est déjà en mauvaise santé depuis début septembre. Alors, il y a des rumeurs autour de sa santé. Et puis il y a aussi peut-être le fait que, si ça n'est pas le cas, eh bien, qu'il réfléchit à sa réponse politique ou sécuritaire à ces manifestations. C'est pas la première fois que le pouvoir réprime des soulèvements populaires. Et c'est souvent assez sanglant en Iran, en 2019, je crois. Ouais. Ouais, Cyril, on en a parlé de ces parkas noirs portés par les joueurs de football iraniens. On en a parlé la semaine dernière, tout à fait. Tu as raison. Olvi, bonne journée à toi. Allez, maintenant, je vous parle du Brésil. Alors, ce matin, quand on a pris l'antenne sur France Info, on commençait à voir les résultats de cette présidentielle en Iran. Je vous rappelle, on a eu 4 ans au Brésil d'une présidence exercée par Jair Bolsonaro, qui est présenté comme un président d'extrême droite. Présidentielle, premier tour, donc c'était hier. Certains sondages donnaient Lula, l'ancien président de gauche, qui a fait de la prison pour corruption, puis qui a été innocenté par la justice de son pays, également par l'ONU. Donc certains sondages disaient Lula gagnant dès le premier tour, et finalement les sondages se sont un petit peu trompés. C'est-à-dire que Lula est en tête, on est sur du 48% à peu près, au moment où j'ai quitté l'antenne ce matin. Et 44% pour Jair Bolsonaro. Donc c'est un peu plus. Ah non, Magique plus dit. Est-ce qu'il a gagné Bolsonaro? Non, pas du tout. Mais disons que l'avance de Lula est moins importante que prévu par les sondages. Voilà. Donc, sur le papier, Bolsonaro est un retard qui sera très difficile à rattraper. Mais ça, on le verra dans un mois, puisque le deuxième tour, c'est dans un mois. Il y a un mois, il y a 4 semaines. Il y a 4 semaines entre le premier et le deuxième tour. Voilà. 48% au premier tour, comment c'est possible? C'est énormissime, moi je sais. En fait, il y a plein de candidats, mais il y a plein de candidats qui ont fait un tout petit score. Il y a Bolsonaro et Lula qui ont fait respectivement autour de 48 et 44%. Voilà. Donc on verra dans 4 semaines. En attendant, la question qui est évoquée dans l'Humanité ce matin, c'est quel bilan pour Jair Bolsonaro à la tête du pays? Après ces 4 années à la tête du Brésil, une gestion calamiteuse notamment de la pandémie de Covid, que faut-il retenir du mandat du président candidat d'extrême droite? Ici, l'Humanité a donné la parole notamment à Hervé Théry, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur invité à l'université de São Paulo. Je pense qu'on a largement le temps de lire cet article, vu que le président Macron parle dans 9 minutes. On ira voir ce direct sur YouTube. Alors ce chercheur, il dit ceci, que pour se faire par soi-même une idée de la personnalité de Bolsonaro, eh bien il suffit de lire ce petit florilège de certaines de ses déclarations. Hein. Donc ce chercheur a dit, bah, vous voulez comprendre comment fonctionne Bolsonaro, ce qu'il pense, bah, il suffit de lire ce qu'il dit en fait. C'est pas inintéressant. Un bilan complet du mandat de Jair Bolsonaro est en train d'être établi par un groupe d'experts et sera publié prochainement dans la nouvelle formule de la revue Problèmes d'Amérique latine. En attendant de pouvoir s'y reporter, il nous a paru opportun, pour que les lecteurs se fassent par eux-mêmes une idée de sa personnalité, de laisser la parole à Jair Bolsonaro lui-même, petit florilège de cette déclaration qui avait été recueillie en 2019. Vous êtes prêts? Let's go. En réalité, la cavalerie brésilienne a été très incompétente. La cavalerie américaine a été bien plus compétente, elle a décimé les Indiens de nos jours. Ce problème ne se pose plus dans son pays. Bon, ça, c'était un discours où il estimait que la répression contre les Indiens du Brésil aurait dû être, vous l'avez compris, plus forte. Autre propos de Bolsonaro, l'erreur de la dictature a été de torturer au lieu de tuer. Propos de Bolsonaro, Pinochet aurait dû tuer plus de monde. Propos de Bolsonaro, j'ai eu 4 fils, la 5e fois j'ai eu un moment de faiblesse et ça a été une fille. Bolsonaro. Je ne pourrais pas aimer un fils homosexuel, Bolsonaro. Je ne serais pas hypocrite, je préférerais qu'un de mes fils meure dans un accident plutôt que de le voir arriver avec un moustachu. Pour moi, il serait alors vraiment mort, Bolsonaro. Dans ces couples homosexuels, 90% des garçons adoptés seront homosexuels et vont se prostituer sans aucun doute, Bolsonaro. Dieu avant tout, pas question d'État laïque, l'État est chrétien et que la minorité qui est contre s'en aille, les minorités doivent s'incliner devant les majorités, Bolsonaro. Ces afro-descendants, ils ne font rien. Je pense qu'ils ne sont même plus bons à procréer, Bolsonaro. Trump fait un excellent gouvernement dans son pays, Bolsonaro. Alors ça, il a dit ça à une opposante politique, à une députée fédérale. Je ne te viole pas parce que tu ne le mérites pas, Bolsonaro. Donc c'est un bon. Alors tout l'article comme ça, c'est que du Bolsonaro. Alors il y a un second ensemble de déclarations qui a été recueilli sur un site internet. Cité par ce chercheur, Hervé Théry, qui travaille au CNRS. 30 phrases de Bolsonaro sur la pandémie maintenant. Et donc, en fait, ce sont des déclarations de Bolsonaro tout au long de la pandémie, alors que le nombre de décès augmentait. Par exemple, le 9 mars 2020, donc à l'époque zéro décès pour cause de Covid au Brésil, Bolsonaro, le pouvoir destructeur de ce virus est surdimensionné, peut-être même qu'il est exagéré pour des raisons économiques. Le 28 avril 2020, il y a 5000 décès, il dit: Et alors, je suis désolé, que voulez-vous que j'y fasse? Le 2 juin 2020, 31 000 morts. Nous sommes désolés pour tous les morts, mais c'est le destin de tout le monde. 17 décembre 2020, on est à 184 000 décès. Si tu prends le vaccin et deviens un alligator, je n'ai rien à voir avec ça. 5 janvier 2021, on est à 197 000 décès. Le Brésil est fauché, je ne peux rien faire. 17 mai 2021, on est à 436 000 décès. Commentaire, il y a des idiots qui même aujourd'hui restent à la maison. 8 septembre 2021, on est à 584 000 décès. Le Covid a juste raccourci leur vie de quelques jours ou de quelques semaines. 22 janvier 2022, on est à 620 000 morts. Je suis profondément désolé, mais c'est un nombre négligeable. 622 000 morts. C'est que les déclarations de Bolsonaro pendant la crise sanitaire. 26 septembre 2022, on est sur un total de 34 millions de cas de Covid. On est sur un total de 685 835 morts au 26 septembre dernier. Voilà. Donc, quel bilan pour Bolsonaro? Bon, en tout cas, voilà le regard de ce chercheur. 55, allocution enregistrée du président Macron diffusée sur sa chaîne YouTube dans 56, 4 minutes. On va aller voir dans un instant. Ça, c'est dans l'Humanité, c'est page 23. Ouais. Bon, alors, allons voir. Ce qui est annoncé sur la chaîne YouTube du président de la République. Donc, c'est une allocution enregistrée. Merci à la personne d'ailleurs qui me l'a signalé dans le chat tout à l'heure. C'est grâce à toi que je l'ai vu. Alors, ça s'appelle Une méthode nouvelle. Donc, c'est une allocution qui a été enregistrée, mais qui sera diffusée pour la première fois dans un instant. Donc, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Ah, il y a un chat. Ah, il y a un chat. Ah, c'est que pour les abonnés. Ah, c'est drôle. Ah ouais, c'est sub-only en fait. Moi, je peux pas écrire, moi. En savoir plus, je... Zut alors. Comment je fais pour m'abonner, moi? Oh là là, compliqué. Top chat, 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 chat. Envoyer un message. Limite. Ah, abonné. Une chaîne peut réserver son chat en direct à ses membres ou à ses abonnés. Si le chat est réservé aux abonnés, la chaîne peut définir la durée minimale de l'abonnement nécessaire pour participer. Comment je fais pour m'abonner, moi? Je suis pas très... Ah, s'abonner, c'est là. C'est en rouge, Samuel. Connectez-vous, se connecter. Oh là, ça va être juste, ça va être juste. Oh là là, ça va être juste. Bon, tant pis, je voulais dire un petit mot dans le chat. Oh, zut, zut, j'ai perdu. Vite, vite, Samuel, vite. Vite, j'ai perdu la chaîne du président. Vite, vite, va, Samuel, va sur YouTube. Ah, le téléphone. Le réveil. Vite, Samuel. Ne stresse pas, tout va bien se passer. Emmanuel Macron. Vite, vite, Samuel. Voilà, hop, on y est. Ah, ouf. Voilà. Tintintin, j'éteins le réveil puisqu'on s'était mis un petit réveil. Pour ne pas louper l'allocution du président Macron sur YouTube. Ah, donc, il y a le chat. Il est où le chat? Mode ralenti activé. Il y a quelqu'un qui se moque de moi. Ah, on dirait ma grand-mère devant un PC. C'est pas très gentil, hein. C'est pas très gentil. Coucou Samuel. Oh, il y a Ronan qui est dans le chat. Il y a Ronan qui est sur Twitch et qui est parti dans le chat et dit coucou Samuel. Oh, j'adore. Oh, bah il y a Miracro qui dit coucou Samuel. Coucou. Mais comment vous faites pour me voir? C'est fou ça, vous êtes fort. Vous aussi, vous y êtes? Oh, j'ai hâte. On est à 2 minutes. Vous me faites coucou dans le chat? Le mec, il comprend rien. Vive Samuel Etienne, dit Vinstan. Ouais, on est là. Samuel Etienne, coucou. Dom Kilimad, ouais, je suis là. Tintintintin, Samuel dans la place. Ouais, enfin, en fait, non, j'ai pas réussi à me connecter. Oh, trop bien! Ah, vous êtes dans le chat. On est en train de pourrir le chat du président, c'est pas cool. Oh, Solal! Mais Solal, non, tu peux pas venir maintenant. C'est le président Macron qui va parler. Non, Solal. Non. Non, Solal. Non, pas maintenant. Non, parce que... Ah, t'es trop mignon. T'es trop beau. Non, oui, mais il y a le président Macron qui va... Il y a le président Macron qui va parler.
Je peux venir te voir tout à l'heure? D'accord? Je vais te donner du pain.
La baguette viennoise. Je surveille le président, vous inquiétez pas.
Oui, je vais te donner du pain, d'accord? J'arrive, ok? Tu demandes du pain à Odélia?
Je surveille le président, vous inquiétez pas. Pour l'instant, ça parle pas.
Tu vas chercher du pain? Et après, tu vas.
Ah, ça, c'est parti! Let's go! Vite, pose-toi seul! A tout à l'heure, mon chéri! Et hop là! Let's go! C'est quoi ce générique? Je me suis fait hacker ou quoi? Ça pique! Ouf. Ça fait mal aux yeux, hein? Ah, c'est YouTube? Oh là 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 là, ça fait peur! Oh là 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 là! Ouh! C'est pourri! Ah, mais non, ça fait mal! Allez, let's go!
Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous souhaitons mettre en place pour bâtir ensemble, pour notre pays, à la fois plus de consensus, un cadre de pensée d'action commun et aussi des solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre vous. Durant les 5 dernières années, nous avons changé beaucoup de choses dans la vie du pays. Évidemment, par des textes de loi, par des décrets, par de l'action publique, de l'action collective. Et je veux ici à nouveau remercier nos parlementaires, les services de l'État, nos élus qui n'ont cessé de contribuer à cette transformation en plus de la gestion des crises. Nous avons aussi collectivement innové d'un point de vue démocratique. Avec le grand débat qui, alors même que nous vivions une crise sociale sans précédent, a permis d'aller à votre rencontre grâce à nos maires partout sur le territoire et à en dégager des propositions très concrètes qui nous ont permis de changer les choses. C'est grâce au grand débat que nous avons changé l'impôt sur le revenu, créé plus de 2000 maisons France Services pour recréer des services publics sur le territoire, que nous allons recréer des sous-préfectures, je l'annoncerai dans les prochains jours, que nous avons remis de la force d'action publique partout sur le terrain, que nous avons décidé de rouvrir des petites lignes de chemin de fer, que nous avons aussi décidé des choses très concrètes, par exemple pour les familles monoparentales, c'est-à-dire souvent ces femmes seules qui élèvent leurs enfants et qui ont en plus à essayer de retrouver un travail ou à bien vivre de leur travail, par là aussi des mesures fiscales et d'accompagnement très concrètes. Nous avons ensuite bâti, c'était une des conclusions du grand débat, cette convention citoyenne sur le climat, qui nous a permis non seulement ce travail inédit démocratique, et donc de faire avancer le débat public en matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, mais d'arriver à un texte de loi inédit, qui, grâce au travail aussi de nos parlementaires et de nos administrations, va nous permettre, est en train de nous permettre, d'améliorer très concrètement les choses pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments, l'amélioration de nos moyens de nous déplacer pour sortir progressivement du carbone, un meilleur respect de la biodiversité en protégeant contre l'artificialisation des sols ou en luttant contre l'usage unique du plastique, et qui va nous permettre de tenir nos objectifs en termes de réduction de nos émissions de CO2 et de protection de la biodiversité. Mais on a tous conscience que les choses ne vont pas assez loin, qu'il y a dans notre démocratie quelque chose qui, au fond, n'est pas totalement abouti. Je le formulerai en des termes simples. D'abord, le débat public, et nous l'avons vu lors des dernières élections, continue de se faire autour de divergences très profondes qui ne sont pas simplement des divergences d'idées, mais parfois, nous n'avons pas même la... Je dirais, nous n'avons même pas la même vision de la nature des problèmes et des faits. La deuxième chose, c'est que, je le sens à travers les courriers, les déplacements, ce que vous me dites, il y a une volonté d'être associé, mais pas simplement au moment des élections, pas simplement dans des temps de délibération, mais de participer à la prise de décision, d'être vous-même des acteurs de ce qu'est l'action publique, et de dire le citoyen n'est pas quelqu'un
Attention.
À qui on va imposer... des décisions, à qui on va même proposer des solutions sans être pleinement associé à la réponse. Cette méthode différente, c'est celle que j'ai voulu porter en campagne avec ce fameux « avec vous ». C'est celle que j'ai voulu installer dès les premiers jours de ce mandat et qui est au cœur du Conseil national de la Refondation. Ce Conseil national de la Refondation, au niveau national, c'est ce que j'ai lancé il y a quelques semaines à Marcoussi avec la Première ministre et plusieurs ministres, réunit le gouvernement, les forces syndicales, patronales, les forces politiques, évidemment l'ensemble des représentants de nos territoires et donc des associations d'élus, mais également les forces vives de la société et donc toutes celles et ceux qui représentent le monde associatif, nos ONG et les différentes causes qu'ils portent. En plus, évidemment, des présidentes et présidents des chambres qui sont prévues par la Constitution et du plan qui a vocation, là aussi, à mobiliser l'expertise dans la nation. Et donc, cette première réunion, qui sera suivie d'autres, elle a pour vocation à se dire quels sont les faits, quelle est la situation du pays sur le plan économique, social, en termes de climat, en termes demain de biodiversité, d'inégalité, et de bâtir du consensus, et d'essayer de définir sur quoi les uns et les autres sont d'accord et pas d'accord, mais d'essayer d'éviter les désaccords sur des faits qui sont incontestables. Ensuite, nous sommes en train de définir des chantiers nationaux, des grands éléments sur lesquels nous avons la conviction qu'il faut, là aussi avec toutes les parties prenantes que je viens de citer, pouvoir construire des stratégies nationales. Et donc, sur les grands sujets, que sont les inégalités, que sont au fond, j'allais dire, les grands sujets de transition, la transition productive et celle du modèle social, la transition climatique, c'est-à-dire la réponse au réchauffement climatique et à la biodiversité, la transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population et les réponses qu'il importe, la transition numérique, avec les changements de comportement, d'organisation de notre production, les inégalités qu'il suscite, la transition du travail, qui est un peu le fruit de tout cela. Tous ces grands sujets de transition, on doit les penser dans le temps long, bâtir des stratégies nationales et réussir à créer de la coopération entre les acteurs. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. Et sur ces grands sujets, j'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la Refondation.
Annonce.
Et donc, avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. Rendez-vous dès maintenant sur cette plateforme.
Okay.
Choisissez les sujets qui vous tiennent à cœur, l'écologie, l'école, la santé, la démographie, le vieillissement, le travail, et participez-y pour contribuer à ce travail justement de conception, pour apporter vos contributions plus personnelles, plus approfondies, pour lever aussi de nouvelles questions, mais nous aider à bâtir, dans le cadre de ce Conseil national de la Refondation, thématique par thématique.
Ok, c'est ça l'annonce.
Les projets, les travaux, nous inspirer d'expériences locales, le faire en direct et en toute transparence pour nous dire où sont vos réflexions, quelles sont vos contributions, quels sont les premiers changements, les premières innovations, et nous faire partager les choses pour que nous puissions avancer sur ces grands sujets. À côté de cette participation à notre plateforme qui sera lancée donc dès aujourd'hui, conseil-refondation.fr.
Okay.
Et pour laquelle je compte sur vous.
Okay.
Je voulais aussi vous dire qu'il y aura, dès les prochains jours, deux immenses chantiers nationaux qui seront lancés partout sur le terrain et de manière très concrète.
Deuxième annonce.
Et là, ça n'est pas de la consultation, ça n'est pas du débat, c'est de l'action. Sur l'école et sur la santé, nous allons lancer un travail de refondation, notre école et notre santé, où nous allons demander partout sur le territoire où les gens sont volontaires, pas d'obligation, de pouvoir se saisir de la question, des questions clés qu'ils se posent, et de manière très concrète, au niveau de chaque établissement scolaire qu'ils souhaitent, de pouvoir mettre autour de la table, sur le modèle de ce que nous avons fait avec Marseille en Grand, les enseignants et enseignantes, les directrices et directeurs d'établissements, les parents d'élèves, les élèves lorsqu'ils ont l'âge, le monde associatif en charge du périscolaire, les élus, et toutes celles et ceux qui ont vocation justement à participer à l'éducation de nos enfants, dans le temps scolaire ou périscolaire, de se mettre autour de la table pour bien cibler les objectifs, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les objectifs qu'ils se donnent. Et de pouvoir construire, dans les semaines et mois qui viennent, eh bien une feuille de route. L'administration sera au service de ce travail de refondation. Les rectorats, les équipes de l'administration centrale seront là, comme je l'ai expliqué au recteur, pour vous appuyer, vous donner en quelque sorte la boîte à outils, les instruments, mais vous aider à inventer les bonnes réponses pédagogiques. Il y a des établissements où on n'arrive pas à bien enseigner les mathématiques. Il faut qu'on vous permette d'avoir le laboratoire qui convient, les méthodes qui s'adaptent, peut-être échanger avec d'autres collègues. Il y a d'autres endroits, c'est au fond le temps périscolaire qui pose un problème, parce que les enfants sont trop livrés à eux-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à bien organiser l'accompagnement ou les devoirs qui sont faits à la maison. Comment mieux coopérer entre l'éducation nationale, les bonnes associations? Comment permettre de donner des perspectives aux parents? Il y a d'autres endroits où c'est, et d'autres niveaux, où ça va être l'orientation la clé. À chaque territoire, en plus évidemment de ce qu'est le cadre national, des objectifs, des problématiques. Et donc il faut des réponses différenciées. Et il faut permettre à nos enseignants de pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai décidé d'un nouveau pacte avec les enseignants, on va les accompagner, mais aussi d'un fonds d'innovation pédagogique qui permettra très vite de libérer de l'argent pour accompagner ces innovations pédagogiques. Et donc on commence dès maintenant, et sur les premières demandes, propositions du terrain, école par école, dès le début d'année prochaine, il y aura des réponses concrètes et des choses qui changeront. À tel endroit, une salle qui sera ouverte, à tel autre, peut-être un poste d'accompagnant qui sera créé, du temps qui sera libéré pour tel enseignant. C'est du changement à l'échelle humaine, à l'échelle de vos vies, en temps réel, avec des financements qui sont prévus. Pour la santé, c'est la même démarche que nous allons lancer dès octobre.
Okay.
Nous connaissons tous le problème des urgences qui débordent, un hôpital qui souffre et des déserts médicaux. On a mis beaucoup de moyens, on continuera de le faire dans les textes financiers qui arrivent. Mais au-delà de tout cela, la réponse est au plus près du terrain. Nos professionnels de santé, qu'ils soient soignants, paramédicaux, nos associations, nos élus, nos associations aussi de patients, tous ont la même volonté. Et les réponses, là aussi, doivent être différenciées sur le terrain. Il y a certains de nos territoires où, pour répondre à la problématique, il faut parfois avoir simplement 2 semestres d'étudiants, peut-être du chef-lieu de voisin ou de la capitale régionale, pour venir combler un manque. À d'autres, il faudra trouver les moyens de convaincre peut-être des professionnels de santé de reprendre des gardes. Dans d'autres, il faudra retrouver une autre organisation entre l'hôpital et les libéraux qui sont là. Il n'y a pas une réponse au niveau national. Il y en a en fait des milliers, autant que de bassins de vie. Et donc, ce que nous allons organiser, là aussi, partout où les acteurs le veulent et ils sont prêts, ce sont ces projets Notre Santé, ou bassin de vie par bassin de vie, on va permettre aux hospitaliers d'aller avec les libéraux, avec les associations de praticiens, avec les SAMU, avec déjà les fameux collectifs de libéraux qui sont organisés, CPTS, comme on le dit techniquement, permettre aux acteurs de télémédecine, aux associations d'usagers, évidemment aux pharmaciennes et pharmaciens, aux infirmiers et infirmières, aux kinésithérapeutes, aux psychologues, aux psychiatres, à toutes celles et ceux qui font notre santé, de se mettre autour d'une table et de faire, pendant les premières semaines, le même bilan, au fond, de la situation, un constat partagé, et de voir où sont, de manière très précise, les points qui changeraient leur vie. Et là aussi, de mettre nos agences régionales de santé, notre ministère de la Santé, au service de cette expression des besoins sur le territoire, et de pouvoir apporter des réponses très différenciées. Parfois, on le sait très bien, en changeant de toutes petites choses, on change des vies. Et nous allons accompagner ce mouvement d'un formidable mouvement de transformation dans nos hôpitaux, en permettant de redonner le pouvoir au niveau du service, et en redonnant le pouvoir, si je puis dire, en tout cas plus de responsabilité, aux soignants. Cette révolution, ces révolutions de l'école et de la santé, je ne les ferai qu'avec vous, quand vous êtes concernés. Et donc là aussi, je m'exprime au-delà de la consultation de la plateforme, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux associations, à nos médecins, à nos infirmiers, à nos pharmaciens, à nos usagers, participer partout sur le territoire à ces grands travaux de refondation. Là, ce ne sont pas des débats, ce sont des refondations profondes. Dès la mi-octobre, nous lançons notre école, notre santé, dans le cadre du Conseil national de la refondation. Notre école et notre santé, c'est le « avec vous » mis en œuvre. Nous tous, nous allons les refaire. Je compte donc sur vous, avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, de force. Participez à la plateforme, mais aidez-moi à transformer le pays. Aidons-nous à trouver de manière intelligente, tous ensemble, les bonnes solutions, loin des postures, des conservatismes, loin des débats qui sont parfois caricaturaux, mais en considérant tous que nous avons notre part à prendre d'idées, d'initiatives, mais de changements très locaux. Nous pouvons changer les vies si nous décidons de le faire. C'est le choix que j'ai fait, je serai à vos côtés pour le faire, envers et contre tous les blocages. Vive la République et vive la France.
Ok. Combien ça? Donc là, on est sur 14 minutes à peu près. 14 minutes. Voilà. 14 minutes. J'avais ouvert le chat sur la chaîne YouTube du président de la République en même temps. J'avais deux chats. Voilà. Alors, la grosse annonce, elle est arrivée au bout d'un certain temps, hein, qui est l'ouverture d'un site internet aujourd'hui pour que, vous l'avez entendu, chaque citoyen en France, chaque personne puisse en fait participer au grand débat national du Conseil national de la refondation. Voilà. Ce Conseil national de la refondation, dont on a déjà parlé ici, hein, ce truc qui est plutôt mal né, puisqu'il y a plein de gens qui en ont déjà claqué la porte avant même que c'est vraiment démarré, notamment les partis de l'opposition qui refusent d'y participer, beaucoup d'organisations, d'associations, aussi de syndicats qui sont ne veulent pas y participer, sont extrêmement méfiants par rapport à ça. Et donc, là, c'est un peu ce qui me semble être une tentative de relance, moi c'est comme ça que je l'interprète, hein, à chaud, hein, de ce Conseil national de la refondation, qui est de dire aux Français, bah, écoutez, il ne le dit pas, hein, mon truc n'a pas trop marché là, personne ne veut trop y aller. Cette espèce de Conseil national de la refondation, en gros, où tout le monde, partis, syndicats, ONG, élus locaux, gouvernement, devait se réunir pour parler, discuter des grands problèmes de la France, l'éducation, la santé, peut-être pourquoi pas les retraites, pour qu'ensemble on discute des sujets et qu'on trouve des solutions. Donc louable objectif, mais qui n'a pas convaincu grand monde, disons-le tout net. Il me semble que l'annonce du président Macron en mode Français, Françaises, à vous maintenant de participer à ce Conseil national de refondation avec un site internet qui va donc être lancé aujourd'hui. Ça me semble être, je ne sais pas si comment l'avez interprété, ça me semble être une tentative pour sauver un peu le truc, quoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Ours Maoul dit on dirait une boîte à idées qu'un DRH met en place dans une entreprise. Ouais, c'est une grosse boîte à idées, mais c'est ça, ouais. Oui, tu as raison. Jugraf, très pessimiste, du vide, ça ne servira à rien, son site de refondation. Qui va lire les messages? Ça n'a pas été précisé, c'est dit live, c'est une question que je me suis posée. Qui va lire tous ces messages? Imaginons que les Français se prennent au jeu, effectivement. Imaginons que les Français se prennent au jeu, qui va lire les messages? C'est une bonne question. Ça, il ne l'a pas dit. Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché, dit The Bat in the Hat Shop. Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà fait ça une fois? Non, à demander à tant de citoyens de donner leur avis. Le MTV, oui, notamment au moment de la Convention citoyenne sur le climat, hein, qui avait suscité beaucoup d'espoir. À un moment, le président Macron avait même dit qu'il allait reprendre l'essentiel des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Et en fait, rien, ou quasiment rien, n'en a été retenu, quoi. Donc, ça ressemble un peu à la même démarche, quand même. Mais avec le fait que dans le passé, ça n'a débouché sur pas grand-chose, pour ne pas dire sur rien, quoi. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu séduits, qui trouvent que c'est... Je cherche, moi, tous les avis. Chemical what the fuck, clairement un coup de com' en novlangue pour un projet poussif, ok. Il n'y a pas des gens qui trouvent ça sympa, histoire de confronter différents points de vue. C'est, ouais. Ah, Mystics. Désolé, mais c'est une bonne idée. Ah, ok. C'est quoi, c'est conseil-refondation? On va aller voir si c'est ouvert. C'est ça, non? C'est comme ça que ça s'appelle? Ah bah ouais. Ça doit être ça. Ouais, le site est ouvert. C'est ça, en fait. Ça semble être ça. Voilà. Construisons ensemble. Salut, c'est nous les cookies. L'avenir de la France. Citoyens, citoyennes, partenaires sociaux, professionnels, nous avons tous une voix et des idées à apporter pour faire avancer le pays. Le Conseil national de refondation vous propose plusieurs formats pour échanger ensemble et de manière constructive afin d'apporter des solutions sur les défis à venir tant au niveau national qu'au plus près de chez vous. Voilà, il faut écrire... Il faut écrire son email et puis let's go, quoi. Ah bah ça y est, puis la vidéo elle est là. La vidéo elle est là. Ok. N'en pensez quoi? Parce qu'il y a des... bon, on a... j'ai lu quelques critiques, du coup j'essaie de trouver des gens qui trouvent ça intéressant. Nita, par exemple, dit, moi je trouve ça très bien, après à l'issue de la Convention citoyenne sur le climat, donne pas beaucoup d'espoir. Voilà. Sur le papier, ça a l'air bien, dit Conrad. Conrad, pardon. Bah, encore une tentative, dit Fromage Gland. Joli. Mais il a déjà fait ça plusieurs fois. Le grand débat, le Conseil de l'écologie. Il y avait 2000 personnes sur YouTube, il n'a pas parlé à grand monde, dit Red Buckle. Ah bah oui, mais nous, on était 3500. Et puis l'ami Jean était aussi en live au même moment. Il est toujours en live d'ailleurs. Donc ça faisait, à nous deux, ça faisait genre 7000 quoi, en plus. Mais c'est vrai que c'est. Alors ça, en gros, je pense que les médias traditionnels vont en parler de ça. Je pense qu'Alix Bouygues, demain dans la matinale de France Info, va nous donner un petit peu son éclairage là-dessus. DRH bidon, me dit à elle. Knocknot, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais au moins il essaie de montrer qu'il est à l'écoute. C'est mieux que rien, mieux que le flou gouvernemental dans lequel on a toujours baigné. Prendra-t-il plus en compte les avis que lors de la convention citoyenne? Gros doute, dit Cordama. Bon, voilà. On fait un petit sondage? Ah, vous en pensez quoi? On fait un sondage? Il ouvre un Discord, en fait, dit Aculin. C'est un Discord, en fait. Je vous lis un petit peu. Ok, on va faire un petit sondage et puis je vais vous lire le reste de la presse. Alors, sondage, rapidement, je remercie aussi Codis parce que je n'ai pas trop remercié les subs pendant qu'on écoutait le chef de l'État. Codis, merci pour le 11e mois. Le type en vacances, merci pour le 5e mois. Wow! C'était bien la mer? Merci en tout cas. Ah, le petit sondage, gérer le sondage, dites-moi. Êtes-vous séduit par cette proposition? Proposition du président. Êtes-vous séduit, séduite, par cette proposition du président avec un T à la fin, pas Y, celui-là. Je m'y... Vous répondez beaucoup. Bon, très, très. Bon, très séduit. Un peu. Pas trop. Pas du tout. Ça fait quatre nuances et je ne sais pas, puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis. Ok. Le sondage dit, êtes-vous séduit par cette proposition du président, donc proposition de participer au grand débat du Conseil national de la refondation via un site internet, vous l'avez compris. Très, un peu, pas trop, pas du tout, je ne sais pas. Bamos, vous avez 2 minutes pour voter. Alors, ça donne quoi? Je regarde, je regarde. C'est pas, c'est partagé, c'est intéressant. Ok. C'est partagé, regardez. 13, 7%. Ouais. Un peu 32%. Si j'additionne les très et les un peu, bah, ça fait quand même 39% qui ne trouvent pas la démarche inintéressante. Pas trop 19%, donc c'est pas non plus un rejet total. Pas du tout 32%. Moi, je m'attendais à plus de rejets, c'est intéressant. Et je ne sais pas, 11%. Voilà. Peut-être parmi vous, des gens qui veulent en savoir un petit peu plus. Ok, d'accord. Ok. Très, 6, 7, 6, un peu 33. Pas trop 19%. Le rejet, c'est 32%. Et je ne sais pas, 10%. Ok. Comment ils vont lire 1 million de messages s'il y a 1 million de gens, dit Maori. C'est la question que je me suis posée quand le président Macron présentait son projet. Mais comment ils vont faire pour tout lire, en fait? Tout lire, et puis comment ils vont faire pour tout lire, et comment ils vont faire pour en tirer des enseignements? Hein? La carotte sévère, quel intérêt de répondre je ne sais pas? Mais c'est très important. On n'est pas obligé d'avoir un avis. On peut dire, c'est même une forme d'honnêteté et d'exigence intellectuelle, dire bah j'ai pas encore assez d'informations, j'ai pas encore assez réfléchi, j'ai besoin d'entendre d'autres arguments, j'ai besoin de lire plus. Donc le je ne sais pas, c'est même très important. Donc évidemment, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, quoi. Et puis on n'est pas obligé d'avoir un avis maintenant sur tout. C'est très important. La carotte sévère. Bon, en tout cas, merci. 32% pas du tout, 32% un peu, pas trop, 19%, je ne sais pas, 10%, très, 7%. Ouais. Vous êtes plusieurs à penser qu'il y aura des algorithmes ou des IA pour trier tout ça. Ok. D'accord. Ok. Bon, allez, je reviens à ma presse parce qu'il me reste encore un ou deux articles. Et puis peut-être même sûrement qu'on lira demain des articles sur ce qu'on vient de regarder un instant ensemble, quoi. Voilà. Ok. Allez, les derniers articles sont à lire dans le Figaro et c'est plutôt des choses intéressantes. Regardez, il y a deux choses. Je vous allume la caméra zénitale. Première chose, c'est l'article de première page du Figaro sur le fait que, avec Liz Truss, le Royaume-Uni s'enfonce dans la crise. Liz Truss, c'est la nouvelle première ministre qui a succédé à Boris Johnson. Et pour le Figaro, eh bien, voici un pays et une première ministre qui vont droit dans le mur. Voilà. On parle notamment du plan de relance qui a été présenté par Liz Truss avec une baisse assez importante des impôts. Voilà. Calamity Truss, titre le Figaro, alors que c'est un journal plutôt pro-baisse impôts d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi Le Figaro estime que rien ne va plus en Grande-Bretagne. Et puis dans le Figaro Économie cette fois, une enquête sur les influenceurs qui sont désormais, nous dit le Figaro en tout cas, sous haute surveillance en France, sous la surveillance des autorités, notamment pour les arnaques. Arnaques, les autorités contre-attaquent pour réguler le business lucratif des influenceurs. On parle de la France là. Et puis on parlait d'IA, d'intelligence artificielle à l'instant. Eh bien en Chine, vous le savez peut-être déjà, eh bien, un robot, un bot, enfin une IA surtout, qui a été promu PDG en Chine. Je ne sais pas si on peut dire PDG parce que c'est une femme. Pardon. Café. L'intelligence artificielle qui prend la direction d'une entreprise de 6000 salariés. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? On ira lire ça également. J'accélère un petit peu. Alors, la Grande-Bretagne tout d'abord. Ouais, c'est une IA qui a les traits d'une femme. Voilà. C'est un bot représenté par une femme, une représentation féminine. Voilà, vous verrez. Avec Liz Truss, donc, le Royaume-Uni s'enfonce dans la crise. L'hostilité contre la première ministre monte dans le pays après l'annonce du mini-budget du gouvernement, alors que le pays a plongé dans la tourmente financière et économique. La chef du gouvernement britannique garde le cap en dépit des critiques. Liz Truss a reconnu dimanche des erreurs de communication, mais réaffirme son plan pour la croissance. Oui, bien sûr, programmé et codé par des hommes, bien sûr. L'IA. En 3 semaines à Downing Street, Liz Truss a pourtant mené le Royaume-Uni au bord du précipice d'une crise financière, entraînée. Je relis le passage parce que c'est important. Le Figaro nous explique qu'en 3 semaines seulement de pouvoir, Liz Truss a mené son pays au bord du précipice d'une crise financière, entraîner la défiance des investisseurs, soulever l'inquiétude du FMI et du Trésor américain. Elle a fait plonger la livre sterling et bondir les taux d'intérêt. Donc sur un plan purement économique et financier, le bilan de ces 3 premières semaines, ça ne va pas du tout. Il est bizarre ton commentaire, J.L. Bourac. Là, je vois pas l'humour du truc. Je pense que tu accepteras ce petit ban très provisoire pour l'expression qui n'est pas très très chic à l'instant, sur la jante féminine, si je puis me permettre. Calamity Truss, c'est l'édito de Philippe Gély, lisons. Il parlait de l'IA, ouais peut-être, mais c'était pas très chic, c'était pas très élégant, mais je suis sûr que J.L. Borac sera d'accord avec moi J'ai un petit ban provisoire, c'est pas méchant. Hein. L'horizon était dégagé, l'avenir s'annonçait radieux. Il y a moins de 2 ans, souvenez-vous, le Royaume-Uni larguait les amarres qui l'arrimaient au continent et prenait le large, c'est le Brexit. Libéré des chaînes de l'action collective, les conservateurs au pouvoir à l'époque se proposaient de déréguler, de baisser les impôts, de réduire l'empreinte de l'État-providence, recette réputée infaillible pour attirer les capitaux du monde entier. C'était le rêve du Brexit. Leur Global Britain allait rivaliser avec les tigres asiatiques, faisant surgir un Singapour sur Tamise, donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Si le Covid a ralenti le démarrage, il ne fut pas pour grand-chose dans l'enchaînement des scandales qui ont finalement eu raison du fantasque Boris Johnson. Désormais, rien ne va plus dans le pays. Les coups de barre intempestifs de Liz Truss menacent de faire chavirer le navire. Dans un contexte d'inflation galopante et de croissance atone, les baisses d'impôts non financées affolent les marchés et font plonger la livre. La Banque centrale doit intervenir en urgence et le FMI diagnostique les faiblesses d'une économie émergente. Chaud. Alors qu'un mouvement de désobéissance civile se répand parmi les citoyens, légitimement inquiets pour leur portefeuille, leur chauffage et leur système de santé, tous en péril. Pour la première fois, conclusion de l'édito, une majorité de Britanniques, c'est ce que disent les enquêtes, voient le vote d'émancipation de 2016, le Brexit, comme une erreur. La grande île est livrée à elle-même comme elle l'avait voulu. C'est chaud. Je ne sais pas si c'est aussi grave. Merci Satsubatsu01 pour le très gentil 5e mois d'abonnement. Je ne sais pas si c'est aussi grave ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais le tableau qu'en dresse le Figaro est proprement apocalyptique. Il y a Teenage Turtle qui dit « Est-ce qu'on va vraiment tout lui mettre sur le dos ? Elle dirige depuis quand ?» 3 semaines. Mais le Figaro semble dire que c'est son plan, notamment de baisse des impôts non financés, qui affole les marchés financiers, en fait. Donc, baisse de la livre, inquiétude du FMI, voilà. Bon. Mama Chad, qui semble maîtriser un petit peu la question. Économiquement, c'est une catastrophe. Les taux à 10 ans ont explosé. Le rapport entre la livre et l'euro est presque à parité. Leur énergie coûte une fortune. C'est presque un pays émergent. Émergent. Morgan Star, il est à craindre qu'on ne soit qu'au tout début de la dégringolade pour le Royaume-Uni, malheureusement pour eux. Oh, tiens, c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires des gens qui sont sur place. Anastasia, actuellement en Angleterre pour mes études, je vous confirme qu'économiquement et financièrement, ça ne va plus. Les factures d'électricité sont affolantes. Pour faire les courses, il faut faire un prêt. Peut-être un peu exagéré, mais c'est chaud, quoi. Alors le plan a été annulé ce matin par Truss, me dit quelqu'un dans le chat. Problème, elle est maintenant perçue comme impopulaire et incompétente. Oh là là là. Ah oui, tiens, je vois que j'ai mal lu le pseudo d'Anastasia. Effectivement. Parfois je lis un petit peu vite. Je vois. Son plan était raillé dans son propre camp, intenable pour elle, John. Des Anglais sont favorables parce qu'elle démissionne. Oh, vache. Boris Johnson était vraiment très peu populaire à la fin, mais je crois qu'en 3 semaines, elle a réussi à arriver au même niveau, quoi. Ok, bon, on va suivre ça. Manifestement, il y a un contexte qui est vraiment très compliqué pour nos voisins britanniques. C'est aussi une crise de confiance qui s'est créée et qui fait effet boule de neige sur l'économie, me dit Elvis Kahn, malheureusement pour Truss. Ok, bon, on va suivre ce dossier qui est un petit peu inquiétant. Quand une économie européenne, même hors UE, s'enrhume, il n'est pas impossible que le reste des économies européennes toussent aussi un petit peu. Donc à surveiller cette histoire. Hein, c'est quand même un pays avec lequel... on commerce, notamment si je dis pas trop de bêtises. Alors, parlons rapidement des influenceurs qui seraient sous surveillance en France désormais. Merci iPhone, c'est gentil. Et puis on va parler d'intelligence artificielle avec donc une IA qui serait devenue PDG, PDGère, puisqu'elle a les traits d'une femme, cette IA, dans la représentation qu'en ont donné ceux qui l'ont créée. En Chine, 6000 salariés quand même dans cette boîte. Est-ce que c'est juste un coup de com'? Est-ce que ça va un petit peu plus loin que ça? Vous me donnerez votre avis, je suis sûr que vous maîtrisez mieux le sujet. Les influenceurs sous haute surveillance. Les autorités sont donc décidées à mettre au pas, et on parle de la France, les stars des réseaux sociaux qui assurent la promotion de produits ou de services douteux. Donc pas tout le monde, mais en tout cas ceux qui vendent ou font la promotion de produits douteux. Arnaque, les autorités contre-attaquent pour réguler le business lucratif des influenceurs. Les stars des réseaux sociaux qui font la promotion de produits financiers sont particulièrement visés. Article de Georges Carasso. Les autorités françaises comptent bien faire le ménage dans la jungle des influenceurs. Placement en bourse, marché des changes, ce qu'on appelle le forex, crypto-monnaie. Depuis le confinement, ces personnalités très populaires sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreuses à faire la promotion de produits financiers et ou de jeux d'argent. C'est un petit peu embêtant. Parce qu'on se demande évidemment la question de la compétence de ces influenceurs sur ces questions. Crypto, forex, placement en bourse, etc. En promettant parfois à leur communauté de dizaines de milliers d'abonnés des gains mirobolants sans risque, seulement quelques clics. C'est vrai que ça paraît un petit peu louche. Lenny, merci pour le troisième mois. Dans cet univers, le meilleur des créateurs de contenu avec des vidéos pédagogiques, parce qu'il y a du bon évidemment parmi les influenceurs, y côtoie le pire de la publicité cachée pour des produits financiers risqués, des offres de formation vaseuses. Les dérives sur Snapchat, sur Instagram, sur YouTube sont devenues si nombreuses qu'une vingtaine d'influenceurs sont aujourd'hui sous surveillance des enquêteurs français, selon nos informations. Le préjudice causé par les escroqueries financières est estimé à 500 millions d'euros par an, selon le parquet de Paris, sans compter le préjudice moral. À ce jour, une seule condamnation hein, pour... Oh, c'est gentil. Merci Zosuan pour le message. À ce jour, une seule condamnation pour Nabila, qui a été condamnée à 20 000 euros d'amende pour avoir fait la promotion sur Snapchat d'une formation de trading en ligne aux faux airs de conseils entre amis, sans mentionner à ses 8 millions d'abonnés qu'elle était payée pour cela. Elle avait un petit peu oublié de le dire. 20 000 euros d'amende. Pour mieux encadrer ses pratiques et protéger les publics les plus... crédule, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, ce qu'on appelle l'ARPP, a dévoilé cette semaine un nouvel arsenal. Avant la fin de cette année, donc là on a des infos assez précises, de nouveaux certificats d'influence responsable seront proposés, l'un avec l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, l'autre avec les opérateurs de jeux agrégés, l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, afin de former les influenceurs à la communication autour des sujets liés au secteur financier. Concrètement, les opérateurs de jeux pourront collaborer uniquement avec des influenceurs qui auront suivi cette formation dédiée. Ces derniers temps, l'AMF, l'autorité de marché financier, tente également d'agir. Il est tout nu. T'es tout nu. Mais 2 ans et demi et nudiste.
Ça va, mon chouchou? T'as mangé? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Bonbon.
Mais c'est un bonbon. T'as fait caca pipi sur le pot? Ah, c'est bien. C'est pour ça que t'as eu un bonbon? Ah, c'est bien. C'est un Pokémon? T'en as eu combien des bons? Donc t'as un Pikachu et l'autre c'est un quoi? D'accord. Deux. Il te le mit. C'est bien cela. Tout à l'heure mon chéri. C'est la belle vie. Il a fait pipi caca sur le pot, donc il a le droit à 2 bonbons. Pokémon. Oui, mais il est tout nu parce qu'il est parce qu'il sort du pot en fait. Voilà. Faut pas qu'il prenne froid par contre. Mais t'es où? Oui, alors qu'est-ce que c'est que ces histoires d'encadrement? Voyons comment ça concrètement ce que ça donne. Faudrait que je lui achète un col roulé à cet enfant. Ces derniers temps, l'AMF tente également avec la RPP de muscler sa veille en ligne afin de repérer en un temps record les services illégaux, vous savez, de trading. Les inscrire sur une liste noire publique. On sent que voilà, du côté des autorités, on s'intéresse un peu à tout ça. Pour les marques aussi. Alors moi, c'est une question que je me suis toujours posée parce que je ne connais pas très, très bien ce milieu. Mais pourquoi les marques investissent, mettent autant d'argent sur les influenceurs? Parce que moi, j'ai des amis dans des grosses boîtes françaises. Et quand j'entends les montants qui sont donnés aux influenceurs pour faire leur truc là. Mais c'est surréaliste. Voilà.
Et Ray est dit, répond à ma question. Il dit, mais parce que ça marche, exactement. C'est ce que dit Le Figaro. Pour les marques, c'est ici. Qui cherchent à séduire les clients jeunes. Eh bien, c'est souvent un pari gagnant. Avoir recours à un influenceur coûte beaucoup moins cher que la publicité traditionnelle. Donc, c'est, je disais, c'est cher, mais justement, c'est moins cher que la pub normale. Et c'est souvent plus efficace. On a un retour immédiat qui est très mesurable. Hein, ça nous permet de recruter les clients exactement qu'on veut recruter, dit un professionnel. Les marques qui font appel au service de ces leaders d'opinion d'un nouveau genre, elles aussi ont intérêt à ce que ce marché s'assainisse un petit peu. Là, il y a un encadré sur les marques, justement, sur comment elles choisissent leurs influenceurs, en faisant très attention notamment à ce que leur image ne soit pas abîmée, parce qu'ils ont bien conscience que c'est quand même un émetteur un peu particulier qui, à côté de cette communication sponsorisée, va faire en live d'autres contenus. Et les marques font notamment attention à ce que, eh bien, il n'y ait pas de choses de conséquences négatives sur leurs produits. Bon, ça, c'est un petit encadré qui est ici, que vous lirez si ça vous intéresse. Mais maintenant, j'ai compris alors. Donc, c'est très efficace. Très efficace pour toucher un public ciblé. Et puis aussi avec des instruments de mesure, hein, le nombre de clics, le nombre d'achats suite à une communication d'un influenceur, tout ça est mesuré finement, beaucoup plus finement, ben, qu'un panneau publicitaire, qu'un spot télé. Voilà. Comme le dit Priam, les streamers ont des codes promo, donc ils ressortent des stats plus simplement. Voilà. Et c'est là où ils se rendent compte qu'en fait, manifestement, c'est efficace. Ok, mais ça vous le saviez déjà, vous êtes trop fort. Et on va terminer, avant de faire un petit raid ensemble. Voilà. Tiens, j'ai peut-être une idée de raid d'ailleurs. Sur cette histoire d'IA, d'intelligence artificielle. Alors là, j'ai besoin de vos lumières un petit peu. Un robot, titre Le Figaro, promu PDG en Chine. L'intelligence artificielle prend le pouvoir. Madame Tang Yu a été nommée en septembre PDG d'une société qui s'appelle NetDragon Websoft, leader chinois des jeux vidéo et des services d'éducation en ligne. Rien de plus banal, sauf que cette femme, guillemets, dit Le Figaro, dont dépendent désormais les 6000 employés de la multinationale chinoise, est un robot, est une agence, une intelligence artificielle. Où est-ce que c'est ça ? La nomination de Madame Tang Yu, explique l'entreprise, traduit notre engagement à adopter pleinement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour changer la façon dont nous exploitons notre entreprise et en fin de compte pour stimuler la croissance stratégique. C'est une première mondiale. Omniprésent dans les ateliers d'usine, les robots n'avaient encore jamais eu accès à la salle du conseil d'administration, à la direction quoi. La nouvelle présidente ne touchera aucun salaire, c'est pratique, ni stock option, c'est pratique. Elle est disponible 24 heures sur 24, c'est pratique. Tous les jours de l'année, c'est pratique, et elle bénéficiera d'une formation continue l'aidant à enrichir ses compétences. Nous continuerons à développer nos algorithmes derrière Tang Yu, puisque bien sûr il y a des humains, des hommes et des femmes derrière l'IA, pour construire un modèle de gestion ouvert, interactif et hautement transparent. Voilà, ben là vous l'avez, c'est elle, c'est Madame Tang Yu. C'est ici là. Donc c'est ça, la représentation de cette IA. Disponible H24, elle ne touche aucun salaire. Ouais, jusqu'au moment où elle va appeler les prud'hommes. Mais bon, on verra. Pourquoi une IA, à un moment, n'appellerait pas les prud'hommes ? Beau monstre, dit David. Si elle était si intelligente, elle ne serait pas PDG, mais actionnaire pour recevoir les dividendes, dit Daruxan. Ça, je valide. Lydiane B, elle touche pas de stock option, elle touche pas de salaire. Est-ce que c'est pour que les dividendes aillent dans les poches des salariés ? Excellent trait d'humour, j'adore. Attends, c'est quoi cette histoire ? C'est quoi ? C'est de la com ? Ou c'est un vrai truc ? C'est juste une employée de paille, dit Rerisette. Attention, dit Surfmoine, elle va décider de liquider la boîte. Ouais. Ah, Yasodara, très inquiet. C'est pour se décharger des responsabilités. En gros, si on devire, c'est l'IA, c'est pas nous. Bravo le sexisme, elle est pas payée. Me dit Kung Fu Pao, j'adore. J'adore votre humour là-dessus. Ouais, pas fou. Il y a Poney Fou qui me dit les prud'hommes en Chine. Ouais. Lucien aussi, les prud'hommes en Chine, ça va être quelque chose, cela dit. C'est pas faux. Oui, mais si elle est très intelligente, cette IA, du coup, elle se délocalise en France. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait longtemps que les marchés financiers sont pleins d'IA, me dit Oursin. Oh, mon Solal. Oh, il y a mon Solal qui pleure un petit peu. Qui est, je pense, en début de sieste. Je vais aller passer du temps avec lui. Hein? J'arrive, Solal, j'arrive. Oh, mon petit chou. Mon petit bébé. J'ai pas passé, je l'ai pas, il m'a pas vu beaucoup ce matin. Donc, bah écoutez, bon, on en reparlera de cette histoire-là. Est-ce que tu t'y connais en droit du travail en Chine? Ça m'aide, bien sûr, je maîtrise parfaitement mon droit du travail en Chine. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Pas fou le bazar, merci pour ce 6e mois d'abonnement à l'instant. Et merci à vous, je me suis régalé, j'ai passé un bon moment avec vous ce matin. N'hésitez pas à follow cette chaîne, à activer les notifications pour être prévenu quand je stream. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter parce que c'est là que j'annonce tous mes streams et pas mal de bêtises aussi. Et puis n'hésitez pas, et merci à ceux qui l'ont fait, à vous abonner, à sub, à envoyer des bits. Merci pour votre soutien, merci à tous ceux qui l'ont fait aujourd'hui. Je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine. Et puis vous me proposez maintenant dans le chat, comme d'habitude, des noms de streamers, de streameuses qui sont en live. Voilà. Et qu'on va aller soutenir par un joli raid. Je vous mets 2 minutes de musique, mais chrono à la seconde près. Et une mini page de pub pour ceux qui sont pas abonnés. Et on raid dans un instant et restez parce que c'est toujours sympa. A tout de suite, bande de beaux gosses. Alors, ça propose quoi? Et on reste dans 1 minute. On reste dans 30 secondes. Et on va être dans 15 secondes. Interrompt ce joli morceau puisque la cible du raid a été choisie, c'est grâce à vous, vous me l'avez proposé. En général, je préfère un raid vers des chaînes qui ont peu de viewers, encore des communautés qui sont pas encore très importantes pour leur faire de la publicité. Il est très rare que je raid un gros streamer ou une grosse streameuse installée, je veux dire, avec une grosse communauté, mais là je vais faire une exception parce que l'ami Jean Massier, dont j'apprécie beaucoup le travail, est en live actuellement. Donc on va peut-être poursuivre d'ailleurs la discussion sur l'allocution du président qu'on a vu tout à l'heure. À mon avis, Jean est là-dessus. Comme ça, on continue la discussion. Faites un coucou à Jean de ma part. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Demain, 9h30, 9h45, la matinée est tienne. Bonne journée et encore merci, je me suis régalé. C'est parti pour le raid.